France Maghreb 2.
À la une du Grand Forum pour ce lundi 27 janvier, à la une, la France est le premier pays européen à déceler des cas de coronavirus sur son territoire. Craignez-vous une propagation de l'épidémie? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez évidemment sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2, ça a beaucoup voté. Vous pourrez également nous faire part de vos craintes ou pas au 01 40 33 9000 dans un instant, et pour en parler avec nous, Gamal Abina et Abslamitash. Municipal 2020, on continue de recevoir différents candidats. Nous nous rendrons aujourd'hui à Saint-Ouen avec le candidat En Marche, Julien Balzi, qui sera avec nous tout à l'heure. Le zapping et sans oublier le quiz actu en fin d'émission. C'est donc parti pour votre émission Le Grand Forum jusqu'à 18h. Je vous en souhaite la bienvenue et une excellente semaine avec nous. Le LGF sur France Maghreb 2, oui c'est lundi, ça y est, on redémarre une nouvelle semaine. Soyez les bienvenus messieurs dames, avec aujourd'hui pour m'accompagner deux mâles d'expérience, Gamal Abina, bonjour Gamal.
Bonjour.
Comment ça va?
Bien, toujours.
Abslamitash, bonjour Abslam.
Bonjour Christophe.
Gamal Abina, MDC.
Toujours.
Un mouvement des droits civiques. Et monsieur Abslamitash, toujours élu dans le 95.
Non, surtout pas. dans 6 semaines, on va dire.
Oui, bon, voilà. Bon, j'ai anticipé le truc, ok, pardon.
Non, je suis chef de file Modem pour la ville de Goussainville.
Mais dis-moi, si c'est pas une prémonition, ça.
Hein. Ouais, mais que Dieu t'entende,
voilà. Voilà, je te l'ai sorti comme ça.
Hop. Voilà. C'est...
voilà. Bon, on va parler de tout à fait autre chose, messieurs dames, parce que là, c'est un peu inquiétant. Les gens sont en panique. Il n'y a plus de masques en région parisienne. Rupture de stock. Évidemment, le coronavirus. Faut-il s'en inquiéter?
Alors, non, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique du tout. On a justement un dispositif qui marche. Et le dispositif qui marche, qui permet de détecter vraiment rapidement les patients, de les isoler et faire le diagnostic. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. Je pense, enfin, on l'a dit les jours précédents, hein, on a dit qu'il va y avoir des cas importants. C'est pas une surprise. On savait, il y a un travail modélisation qui a été fait hier, publié hier, qui montre qu'il va y avoir des cas. Par contre, la probabilité d'une épidémie en France ou en Europe est extrêmement faible. C'est vraiment faible. Voilà. Parce que justement, on a un dispositif pour contrôler l'épidémie.
On rappelle aujourd'hui 3 cas, hein, qui sont évidemment détectés. 2 à Paris, 1 à Bordeaux. 5 autres pour suspicion donc de coronavirus. D'où la question d'aujourd'hui. La France est le premier pays européen à déceler des cas de coronavirus sur son territoire. Craignez-vous une propagation de l'épidémie? C'est la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Et quand on voit le dispositif qui a tardé à se mettre en place, notamment pour les avions en provenance de Chine, c'est seulement depuis hier qu'il y a une équipe de médecins à l'arrivée à Roissy. Ça fait quand même plusieurs jours qu'on parle du coronavirus. Est-ce qu'il y a eu défaillance en matière de gestion de cette crise, Gamal Abina?
Mais c'est pas une défaillance, c'est très très grave ce qui s'est passé. Là, pour le coup, Agnès Buzyn, elle a pas trop à se vanter. Hein. Je veux dire, on connaît déjà la pandémie, enfin l'épidémie qui commence à se développer en Chine à vitesse grand V. Et il faut se rappeler que c'est un parti communiste qui dit pas forcément la vérité. Ensuite, moi,
le président chinois a parlé d'une situation grave.
Hein. Oui, aujourd'hui.
Oui.
Il a quand même attendu une semaine. Et c'est logique, il peut pas faire paniquer sa population. Mais le problème, c'est que je comprends même pas qu'un avion de 240 personnes potentiellement infectées puisse atterrir en provenance de là-bas avec un virus dont on ne sait absolument pas comment le vaincre. Je comprends même pas. D'ailleurs, la belle ironie du sort, c'est que le mot quarantaine, parce que c'est de ça
oui.
Qu'il s'agit. C'est un mot qui était à l'origine français, faut le savoir. Qui vient du 12e siècle, c'était au départ, historiquement, c'était plutôt une dimension religieuse, parce que c'était la fameuse quarantaine qui correspondait aux 40 jours de carême des chrétiens. Puis par la suite, les scientifiques français ont consacré le mot pour exclure des malades potentiellement dangereux. Ça s'est fait à Marseille au début. Donc c'est bien français, la quarantaine. C'est pour ça que l'ironie du sort est incroyable. Elle n'a pas été capable, elle, ministre de la Santé, de mettre en quarantaine des gens qui arrivaient d'une zone infectée et dont, je rappelle, statistiquement, c'est grave. 3 personnes ont été déclarées comme étant porteur de ce virus, et un virus, c'est pas un microbe, un virus. On va pas le vaincre comme ça.
Ouais.
3 personnes porteuses de ce virus.
Il se transmet facilement, celui-là. Hein.
Oui, très facilement, par contact cutané, par l'air, bref. Donc, il y a 3 personnes qui ont fait 10 heures de voyage en avion, qui ont partagé le même air que tous les autres, et qui sont arrivées tranquillement sans être contrôlées. Et là, ce qui est grave, c'est que c'est le seul pays en Europe à avoir fait ça, c'est la France.
C'est ça.
On peut se poser la question du pays quand même, c'est le pays Pasteur, c'est quand même pas le pays des guignols, qui laisse, un avion débarquer d'une zone largement contaminée.
Je crois que le guignol est aussi français.
C'est vrai, c'est vrai. Et il va se prendre un coup de matraque apparemment. Mais moi je suis inquiet parce que je me dis, ils arrivent en plus où? À Paris, super, la capitale de 9 millions de personnes.
Ouais.
Et il y a aussi à Bordeaux, bref, c'est vraiment, ça a été disséminé. Il faut une période d'incubation de 7 à 14 jours. D'accord, pour que la maladie se révèle. Et il faut voir les images quand même en Chine, des gens qui tombent immédiatement frappés comme par la foudre,
ouais,
comme des zombies,
ouais,
avec du sang dans la bouche, et c'est des morts instantanées. Pour l'instant, les Chinois nous annoncent à peu près 51 morts.
Mais 81 morts, monsieur.
81 morts aujourd'hui, oui. Oui. Mais il y a 44 millions de personnes qui sont mises en quarantaine. Vous vous rendez compte, 44 millions de personnes.
C'est quasiment la population d'Espagne.
Ben oui. Et les Français n'ont pas été capables de mettre 240 personnes en quarantaine à la sortie d'un avion, sans dispositif médical, sans rien. Là, franchement, il y a un crime d'État qu'on pourra peut-être, si je
sais pas. Ouais, le mot est fort quand même, crime d'État.
Ah, si, c'est criminel, c'est pas criminel dans le sens de meurtre, c'est criminel dans le sens d'une action qui est vraiment irresponsable et qui peut conduire à des morts.
Amsterdam.
Alors,
la gestion de la
alors,
crise.
D'abord, Gamal annonce 81 morts.
Non, c'est moi qui annonce 81
morts. Alors, 81 morts dans un pays totalitaire, je crois qu'on peut multiplier par 5.
Oui, facile.
En termes d'opacité et de communication. Moi, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les personnes doivent vraiment se protéger, se désinfecter, vous savez, avec les lotions désinfectantes, être le moins possible en contact avec les gens. Je pense surtout aux gens qui travaillent dans l'accueil, l'accueil des publics. Mais aujourd'hui, ben oui, en effet, si trois personnes se trouvent déjà sur le sol, et d'ailleurs, la France s'est empressée de rapatrier tous les Français de là-bas.
Alors, c'est en cours, Destamant. C'est pas encore totalement fait, parce qu'ils sont en train de le faire. Et ils prévoient justement de les mettre 14 jours dans un centre pour les isoler, en fait.
La fameuse quarantaine.
La fameuse quarantaine. 14 jours. Moi, ce qui m'intéresse quand même, au-delà de tout ça, c'est que dans tous les pays européens, dès qu'on a eu connaissance de ce coronavirus, on a renforcé la vigilance, la sécurité et surtout tout ce qui venait en provenance de Chine. Mmh. En France, on a attendu, et c'est seulement depuis hier, messieurs, dames, mmh, qu'il y a des médecins à Roissy. C'est juste pas normal, c'est incroyable. Juste scandaleux. Et on a l'impression qu'à chaque fois que ce gouvernement essaye de faire quelque chose pour peut-être te faire oublier la réforme, ça se retourne toujours contre lui.
Alors, c'est pas le seul gouvernement qui a commis des erreurs.
Non, mais d'accord,
on se rappelle de Roselyne Bachelot,
les vaccins, oui.
Avec les millions de doses de vaccins qui n'ont pas été utilisées pour la grippe A, et qui ont été vendues à des pays, à des prix modiques, uniquement pour essayer de sauver
scandaleux.
Le minimum. Oui, bien sûr.
Scandaleux.
Enfin, à la limite, là, Bachelot, c'est un calcul ridicule qui était raté avec une grippe qui n'arrivait pas.
Au nom du principe de précaution.
Mais le principe de précaution, on peut dire.
Des centaines de millions.
Relativiser, on peut dire que Bachelot a fait une faute politique, une erreur peut-être. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Il n'y a pas de mort d'homme. Là, aujourd'hui,
Il y a eu mort d'homme.
Oui, je veux dire, par rapport à ce vaccin, il n'y a pas mort d'homme, on est d'accord. Alors que là, sur cette histoire-là, on parle vraiment d'une épidémie violente.
Bien sûr. Et d'ailleurs, il faut préciser qu'elle est transmise de l'animal à l'homme, et elle est transmissible de l'homme à l'homme.
Absolument.
C'est un mutagène qui, justement,
moins d'un mètre, c'est-à-dire qu'on est en contact moins d'un mètre pendant plusieurs minutes.
Un éternuement.
Effectivement. Même si le monsieur ou la dame touche un objet et que vous touchez l'objet, vous l'attrapez, c'est extrêmement rapide comme transmission. Donc, du coup, les gens sont en panique. Est-ce qu'il faut céder à la panique quand même?
Bah non.
Non, surtout pas, mais il faut avoir, faut être rationnel et penser à se désinfecter les mains, et veiller à l'hygiène des enfants, qui ne ramassent pas de mouchoirs par terre, que les poignées de porte, toutes ces choses-là.
Il faut se laver les mains,
les WC publics, les robinets, qu'on évite d'être en contact avec ces choses-là, ou tout de suite qu'on se désinfecte.
Est-ce qu'il faut craindre une étendue de l'épidémie? C'est la question que l'on vous pose. Alors vous dites oui à 79% sur Twitter, ça a beaucoup voté
seulement,
d'ailleurs. Le grand forum FM2 et sur Facebook, ils sont un peu moins paniqués. J'ai envie de dire 65% pensent que oui, ça risque de s'étendre l'épidémie en France. Quoi qu'il en soit, je voulais quand même soulever une petite parenthèse aussi et rappeler aussi aux auditrices auditeurs qu'ils peuvent nous appeler pour nous dire s'ils sont inquiets vis-à-vis de ce coronavirus dont on parle évidemment beaucoup en ce moment. J'ai vu d'ailleurs quelques messages intéressants, enfin rigolos sur Facebook, en disant tiens, il fallait qu'il y ait un coronavirus pour sauver Macron des réformes, de la réforme des retraites. Voilà, il y a plein de trucs comme ça.
On va dire que c'est lui qui l'a prévu.
Voilà, c'est ça. Il y a même des images. J'en dirai pas plus. Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est que aujourd'hui, la communauté chinoise soit pris pour cible avec des insultes à caractère raciste, aussi bien dans les transports que sur les réseaux sociaux. C'est juste scandaleux.
À l'égard des Asiatiques
et des Chinois en particulier.
Si j'étais responsable, ça c'est ridicule.
Ouais, c'est absolument ridicule et attention à ne pas tomber là-dedans parce que c'est n'importe quoi. Et voilà.
Et la vache folle, c'était qui? Il fallait attaquer les vaches, c'est trop stupide.
Ou les Anglais.
Ou les Anglais, ouais, pourquoi pas.
Alors ce virus serait parti donc d'un marché dans cette fameuse ville de Evian, comme on dit, Yuan, ouais, c'est Yuan, ça. En fait, c'est une soupe aux chauves-souris. Ouais, paraît que c'est bon, hein, mais bon.
Bah, on laissera moi, là.
Oui, là, ça, pour le coup, ça donne pas très envie. Voilà. Donc, est-ce que vous craignez, en tout cas, est-ce que cette épidémie se répande en France? On parle de la gestion de Agnès Buzyn, qui a fait des conférences de presse sur conférences de presse pour rassurer tout le monde. Est-ce que les messages, justement, du gouvernement, mais aussi de certains spécialistes qui vous disent, ne vous inquiétez pas, effectivement, ça se transmet vite, mais si c'est pris à temps, tout va bien, c'est pas mortel. Est-ce que ça vous rassure, Abdesabitage, ça te rassure?
Non, ça me rassure pas du tout, d'autant plus que, moi, je voulais apporter une précision, les coronavirus, en fait, ont été identifiés pour la première fois chez l'être humain dans les années 60. Mmh. Donc, c'est un virus qui est déjà connu, mais et pour le coup sur son aspect mutagène, et il mute et il mutera encore. Et donc le problème qui risque de se poser, c'est qu'il y ait pas un coronavirus, mais des coronavirus, et qu'il faille à chaque fois trouver des antidotes. Et pendant ce temps-là, on devra hélas compter le nombre de morts le temps qu'on trouve le bon remède. Mais oui, je suis inquiet.
Ça prend du temps, hein, pour trouver.
Je n'ai absolument pas confiance aux autorités sanitaires, parce que je pense que le fait qu'on ait laissé entrer des personnes malades et qu'on les ait laissé se déplacer en liberté, je crois qu'on a ouvert la boîte de Pandore.
Ouais, Gamal, tu partages l'avis d'Abslem là-dessus?
Oui.
Sachant que l'OMS, d'ailleurs, ne s'est pas du tout inquiété ni alarmé de la situation.
Mais elle peut pas s'inquiéter parce que ça va créer une véritable psychose. Mais la réalité, c'est que le problème du virus, c'est que c'est la maladie du siècle. On a vu déjà au siècle dernier le virus du sida, qui était quand même un virus. À chaque fois qu'on réussissait à trouver une méthode pour l'approcher, eh bien, il mutait. C'est la mutation des virus qui pose problème. C'est-à-dire que ces virus-là sont identifiés depuis longtemps, mais ils ont une capacité de mutation face aux produits qu'on leur administre, à savoir tout un tas de médicaments ou de vaccins, qui sont destinés à les endiguer, et à chaque fois ils mutent et se transforment en un virus beaucoup plus virulent. Là, il se trouve que ce coronavirus semble moins virulent que le précédent, mais il n'en demeure pas moins que malheureusement il faut compter 4 à 6 mois pour espérer avoir un vaccin. Et ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est que malheureusement...
Minimum, hein.
C'est ça, mais là, le problème, c'est que ce virus-là, c'est pas le sida. Le sida, il fallait quand même un contact beaucoup plus prolongé, on dira, parce que c'est un contact sexuel.
Contact sanguin.
Sanguin, sexuel, ou par échange de flux. Alors que là, c'est voie aérienne. Alors que là, c'est vraiment le virus, comme un peu, et là, on repense tout de suite à cette fameuse grippe espagnole, qui n'a de nom que l'Espagne, pas du tout, parce que c'est une grippe asiatique, encore une fois, qui est arrivée en Europe, à un moment de crise, puisque c'était la guerre, et qui a fait près de 10 millions de morts, quasiment la moitié de ce que la guerre a produit, parce que la plupart des métabolismes des gens étaient affectés, fragilisés. C'est-à-dire que cette grippe était pas si violente que ça s'il n'y avait pas eu un terrain favorable de gens qui étaient déjà malades ou faibles ou qui étaient mal nourris comme en Allemagne. Et il se trouve que à chaque fois on se retrouve avec des grippes qui viennent souvent d'Asie pour des raisons X ou Y, hein. Ça peut être la question de la nourriture, la chaîne alimentaire, la chaîne du froid, enfin il y a tout un tas de raisons qui font que c'est là-bas que les virus se développent le plus vite, avec des pays très pauvres, et qui finissent par migrer aujourd'hui, puisque la Chine est devenue l'atelier du monde, donc c'est-à-dire que tout part de Chine aujourd'hui.
Ouais.
Ils migrent non seulement par la population chinoise, qui sont quand même un pourcentage très important à l'étranger, mais surtout par les produits manufacturés chinois qui viennent de partout. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, on peut être contaminé par des colis, par exemple. C'est les questions qui se posent. Donc là, on est vraiment sur un rapport double.
Oui, absolument.
Voilà. Ouais. Et le rapport, il est violent parce que ça veut dire que la Chine, qui est l'atelier du monde et qui donc, c'est un incontournable, veut rassurer en disant on va endiguer la maladie, mais il n'en demeure pas moins que si jamais cette maladie peut être transmise par des colis, par exemple, ce qui est possible. Quand on dit qu'on touche une barre de métro, on peut être affecté, imaginez. Là, c'est l'économie mondiale qui est en danger. C'est pour ça que la psychose n'est pas amplifiée. Alors qu'il y a déjà des cas au Canada et qu'il y a une recherche qui dit qu'il y a à peu près, 40 000 personnes qui seraient affectées dans le monde.
Et moi, j'abonde dans ton sens. Pour l'histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que le front asiatique a voyagé comme ça dans des jars qui sont arrivés par conteneurs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un vrai drame écologique, puisque les fronts asiatiques attaquent directement les ruches d'abeilles et les dessinent complètement. Donc,
vous continuez de voter en tout cas.
Est dangereux.
Pour nous dire si vous craignez, cette épidémie, est-ce qu'elle va s'étendre, se répandre? 01 40 33 9000 et surtout sur Facebook France Maghreb 2, vous êtes 65% à penser que oui, 79% sur Twitter, le grand forum FM2 pour voter, vous n'hésitez pas bien sûr. Autre sujet de ce lundi. Ah messieurs, attention, on est en suspense, nous attendons le deal du siècle, il va tomber et apparemment les Palestiniens sont d'ores et déjà vénères, ils prévoient de se retirer des accords d'Oslo. apparemment une belle escroquerie que va nous livrer Trump d'ici bah, très peu de temps visiblement. Il y en a qu'un qui se satisfait de ce deal du siècle, je vous le donne en mille, s'appelle Bibi Netanyahou, ouais, bah, oui, évidemment. Que faut-il en attendre de ce deal du siècle, messieurs?
Gamal, qu'est-ce qu'il faut en attendre?
Oui, qu'est-ce qu'il faut en attendre? Rien.
Moi, j'ai envie de rigoler parce que les deals du siècle américain, on les a vus sous Carter à l'époque avec le fameux accord de paix séparée entre l'Égypte et Israël pour récupérer le Sinaï. C'était ça un peu le deal. C'est de dire voilà, on vous propose la paix contre les territoires. C'est pas la première fois qu'on propose une arnaque comme celle-là. Et malheureusement, il se trouve qu'aujourd'hui, Netanyahou est dans une difficulté grave, qu'il est très proche de Trump. En dépit de ce qu'on peut reprocher à Trump pour certains propos déviants, on dira, sur la question des juifs, mais il est très proche de Trump et il a besoin d'un sauvetage, une bouée de sauvetage, parce qu'il a des affaires qui lui courent après depuis longtemps, parce que sa majorité est faible et parce qu'il a besoin de faire un coup d'éclat. Or, un deal du siècle, ça se fait pas entre deux copains face à un adversaire qui n'est pas concerné, à savoir les Palestiniens. C'est-à-dire que si on veut une paix, on parlait à l'époque, et Sarafat parlait de la paix des braves, il faut que les ennemis puissent se serrer la main et se parler. Là, aujourd'hui, l'Amérique, qui se prend encore pour le gendarme du monde, qui veut désengager ses soldats de la région, fait tout pour créer, dans des conditions parfaitement fantaisistes, un accord de paix qui serait acheter les Palestiniens pour qu'ils cèdent leurs terres. Or, le problème, c'est que même Yasser Arafat, quand il essaie de signer ses accords à l'époque de
Camp David.
Non, j'ai plus son nom. Le saxophoniste, comment il s'appelle, l'ancien président
Clinton.
Bill Clinton, voilà. Oui. Il a essayé de lui forcer la main.
C'était Camp David, Clinton.
Oui, Camp David.
Oui, c'est Camp David 2, oui, Camp David 2, excuse-moi. Oui. Et Bill Clinton a essayé de lui forcer la main. Lui, c'est un bon deal et tout. Il dit, mais je ne peux pas lâcher Jérusalem. Parce que la pomme de discorde, c'est pas les quelques territoires qui restent aux Palestiniens. C'est la symbolique de Jérusalem. Il dit, si je lâche Jérusalem demain, je rentre, on met une balle. C'est logique, parce que ça fait 70 ans qu'il lutte pour récupérer au minimum un des lieux saints d'islam, qui n'est pas des moindres, hein, c'est quand même un des plus importants. Et aujourd'hui, Trump, avec sa méthode de rentre dedans habituelle dont on connaît les méthodes, pense qu'il va passer en force, mais ça ne marchera pas malheureusement.
Oui, alors Abdeslam, les Palestiniens évidemment voient rouge et on peut les comprendre évidemment.
Mais bien sûr.
Donc ils ont annoncé. D'ailleurs, il y a un très bon article sur le site de la radio www.francemagab2.fr qui vous explique un petit peu les enjeux de cette fameuse escroquerie. On peut parler ainsi de ce deal du siècle. Que faut-il en attendre, Abdeslam?
Mais je pense rien pour l'histoire. Gamal évoquait Camp David. Quand il a été question justement de permettre à la Palestine de devenir une autorité palestinienne avec la Cisjordanie et la bande de Gaza, et ben quand on sait comment a fini le premier ministre, tué par un Israélien,
Isaac Rabin.
Ensuite, on a eu Ariel Sharon, la deuxième intifada.
Un orthodoxe israélien, c'est ça.
Hein oui, absolument.
C'est ça, absolument. Qui était très fier et qui faisait le V de la victoire le jour de son procès. Pas du tout dans le remords d'avoir tué un homme. C'est dire à quel point.
Il a quand même tué un faucon, je le rappelle. Hein,
ouais,
Rabin, c'est quand même l'homme qui avait donné
à son pays.
Et pour finir, et quand Ariel Sharon fait déplacer les colons de la bande de Gaza, c'était pas dans le cadre justement d'une volonté de paix. C'était uniquement pour isoler tous les Palestiniens et pour pouvoir les bombarder tous azimuts sans avoir à toucher un seul Israélien. Donc, et aujourd'hui, on voit bien toutes les colonies qui s'installent en Cisjordanie. Il y a une occupation.
C'est fini. Sans aucune, évidemment, légitimité. Et surtout Israël qui continue à violer toutes les résolutions qui assure elle.
Avec la bénédiction des États-Unis.
Évidemment.
Et leur droit de veto.
Que faut-il attendre donc de ce deal du siècle? Eh bien, vous l'avez compris, le LGF a dit non. Rien. Voilà. Tout simplement. Autre sujet important avant que on reçoive tout à l'heure un candidat de Saint-Ouen, on va dire Saint-Ouen, vous connaissez tous Saint-Ouen, les gars.
Oui.
Saint-Ouen dans le 9-3, les gars. Voilà, parce qu'il y a plusieurs Saint-Ouen, il y a Saint-Ouen le Mône, là c'est Saint-Ouen dans le 95, c'est Julien Bélézy qui sera avec nous dans quelques instants. Candidat à cette mairie de Saint-Ouen. Ça va être dur, hein, c'est les cocos qui sont au pouvoir depuis.
Non, c'est la droite.
Ah, c'est la droite. Ouais. Ah oui, pardon, la droite qui avait pris, et c'était d'ailleurs historique. Parce que les cocos ont quand même gouverné.
C'était les socialistes en fait.
Les socialistes. Ouais, bon, de toute façon, c'est le même truc. Voilà.
Ouais,
c'est le même truc. Bon, quoi qu'il en soit, je confonds avec David. C'est vrai que le 93 a été souvent.
Bah, la ceinture rouge.
Voilà, c'est ça. Bah, la fameuse. La fameuse. Ouais. Du coup. Mais il y aura plein de choses à dire donc avec le candidat En Marche. Il est en marche, hein, Julien.
En marche avant, ouais.
En marche avant. On va voir si c'est avant ou arrière d'ailleurs. On verra avec lui dans un instant. Moi, un autre sujet aussi sur lequel j'aimerais avoir votre avis, messieurs. La diplomatie algérienne est-elle de retour? C'est la question qu'on est en droit de se poser avec la crise en Libye et l'Algérie qui a pris une place, pas n'importe quelle place, elle a pris une place prépondérante dans cette affaire, puisque tous les acteurs de la crise libyenne passent par Alger. Le dernier en date, c'est Erdogan, qui s'est d'ailleurs qui a quitté l'Algérie cet après-midi, reçu
grande pompe,
on peut le dire, hier. Erdogan qui est pas venu seul, il est venu accompagné d'une 140 hommes d'affaires. Sans oublier les responsables des renseignements turcs et le chef d'état-major turc également était du voyage, donc il y avait beaucoup de monde. Monsieur et Madame Erdogan étaient donc de visite à Alger pour parler de la crise libyenne. Aujourd'hui, c'est les Émirats qui sont au programme en Algérie. La diplomatie algérienne, est-ce que c'est rassurant, messieurs? Est-ce qu'on peut s'en féliciter que l'Algérie soit de retour sur la diplomatie dans cette région?
Si on connaît le cursus de l'Ardar Barlemi, qui était un très grand diplomate, si on connaît le cursus évidemment Bouteflika, qui était un très grand diplomate, l'Algérie, elle a une qualité que beaucoup de pays arabes n'ont pas, c'est qu'ils ont su très rapidement évaluer et gérer les rapports de force entre États. Là, par exemple, on parle de la Turquie, c'est plutôt frère musulman, on parle des Émirats Arabes Unis, c'est plutôt salafiste, islamiste, type wahhabiste. Donc on est sur deux antagonismes et les Algériens sont capables d'écouter les uns et les autres. Après, il faut jamais perdre de vue que en dessous de tout ce rapport-là, l'Algérie a tout intérêt à ce que la Libye soit pacifiée, parce qu'évidemment c'est un problème à sa frontière, entre le Mali au sud, la Libye à l'est, c'est beaucoup de dangers qui peuvent être déportés sur le territoire, et surtout ces pays ont intérêt à bien se comporter avec l'Algérie, parce qu'ils ont énormément d'intérêt à l'intérieur de l'Algérie, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, que ce soit les Émirats ou que ce soit la Turquie, et ils ont intérêt à rassurer les Algériens sur ce qui va se passer en Libye. Alors aujourd'hui, on sait que Erdogan était en Libye, dans l'Algérie, pour négocier à la fois des accords commerciaux, mais surtout la question libyenne de son intervention. Et après, le lendemain, qui débarque, les Émirats Arabes Unis, qui sont, eux, le versant opposé. Donc, on est vraiment sur deux ennemis.
Déclaration d'Erdogan, intéressante. Il a dit la solution en Libye n'est pas militaire, elle est politique.
Oui, ça, mais tout le monde le dit. Sauf que le problème, c'est du papier, c'est du blabla. Dans les faits, ils donnent des armes, ils soutiennent des factions et des milices rivales. Alors, il se trouve que l'ironie du sort veut que Erdogan est du côté de ceux qui ont une légitimité politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une élection qui, plus ou moins valable, on dira, a reconnu le gouvernement de Tripoli, d'accord? Et on a un dictateur en herbe qui s'appelle, pour lequel j'ai aucune sympathie, qui est donc le général Haftar, un agent de la CIA, qui a été formé pendant 30 ans aux États-Unis, c'est pas rien, qui est américain aussi, faut pas l'oublier. Ce monsieur veut faire un coup de force avec le soutien de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie. Donc, une fois que vous avez le rapport de
la
force.
Il y a la France qui soutient Haftar.
La France joue les doubles jeux.
L'Égypte aussi.
L'Égypte, oui, à fond derrière Haftar, c'est eux qui donnent les armes, mais c'est l'Arabie qui paye. Donc tout ça, c'est des rapports entre la question qui se pose, c'est quoi? Qui va l'emporter? Est-ce que c'est les frères musulmans qui vont l'emporter? Ou est-ce que c'est les wahhabistes saoudiens? C'est ça la question. Et l'Algérie, qui n'est pas partie prenante des deux côtés, accepte de jouer les bons offices. Mais maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner, bien.
Les médiateurs, en fait.
C'est ça, absolument.
Par contre, il y a des laissés pour compte dans cette affaire. C'est le Maroc. Qui quand même avait pris une place importante en matière de diplomatie dans la région, de leadership, j'ai envie de dire, dans la région, et qui pour le coup se retrouve complètement isolé. Abdestem.
Alors, sur ta question, lorsque tu demandais si l'Algérie avait retrouvé sa place diplomatique, moi je pense qu'elle ne l'a jamais perdue, elle a toujours gardé son image de par son histoire, puisque l'Algérie est un pays...
C'est un peu plus facile aujourd'hui avec des vrais acteurs, j'ai envie de dire.
Qui s'est libéré par les armes et pour l'histoire, sur l'aspect diplomatique, n'oublions pas la prise d'otage dans un avion. Alors, je me souviens plus exactement, oui. Et ce sont les diplomates algériens qui permettent de dénouer la situation sans mort et sans drame.
Ça, donc, ou même l'Iran-Irak,
quand les Algériens
Saddam Hussein signe avec le Shah d'Iran, complètement. À Alger en 75, il y a beaucoup d'accords.
La guerre Iran-Irak, justement, qui prend fin, et l'Algérie a toujours eu une place prépondérante dans tous ces pays du tiers-monde, pays non alignés, comme on adore les appeler.
Elle retrouve un leadership, quoi, dans la région.
Non, elle l'a jamais perdu. Elle a toujours gardé son image de leader politique et diplomatique.
Enfin, moi, je dirais qu'elle était en sommeil.
Non, elle a été
en sommeil,
qu'elle était tournée vers elle-même.
C'est ça, absolument.
Sur les années noires que l'on connaît tous, et qu'à ce moment-là, elle était bien obligée de gérer les problèmes de l'intérieur et plus de l'extérieur. Et quel paradoxe. Il manquerait plus qu'on s'occupe des problèmes extérieurs qu'on s'occupe des problèmes intérieurs.
C'est cohérent. C'est pour ça qu'ils étaient en sommeil à ce moment-là.
Complètement.
Mais les diplomates algériens sont très très forts. Ils sont très 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 bien formés.
Ouais. En tout cas, c'est vrai que l'Algérie qui joue un rôle et qui est un acteur dans cette crise libyenne, et qui, comme l'a souligné Gamal, est capable d'écouter effectivement les deux avis, les deux adversaires en Libye, que ce soit du côté Haftar, que ce soit du côté Sarraj, donc avec cette visite, et ça, on le voit très bien. Je veux dire, Erdogan hier, il est resté jusqu'à aujourd'hui. Erdogan qui s'est envolé d'ailleurs, pour la petite info, du côté de la Gambie et le Sénégal. Et d'ailleurs, pour la petite info, il devait aller au Maroc au départ. Et quand les Marocains ont appris qu'il passait par l'Algérie, à la réponse à l'invitation de Tebboune, les Marocains ont annulé la visite de Erdogan. Autre aussi élément à savoir, voilà, c'est juste des faits. Emmanuel Macron, qui devait se rendre au Maroc au mois de février, a reporté son voyage. Voilà.
Macron, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est pas seulement la question libyenne, parce qu'il faut être très clair. Le Maroc, en Libye, il n'a aucune influence. Depuis que Hassan II a mis un coup de couteau à Kadhafi.
Il y avait quand même un accord de Sriraat, là.
Oui, mais c'est voilà. Du baratin. Ça, ils n'ont pas d'influence. Ils ne sont pas frontaliers, de toute façon. Et puis, ils pèsent pour rien, le Maroc. Le Maroc, il cherche à décoller économiquement, et ils ont raison, d'ailleurs. Mais sur le rapport avec la Libye, ça a toujours été un rapport délétère. Parce que Kadhafi avait fait une union avec la Libye et le Maroc. Hassan II lui a planté un couteau dans le dos immédiatement. Donc ça, les Libyens n'ont pas oublié. Ils ne vont pas écouter les Marocains. En revanche, si pour la petite histoire, si Macron se précipite au Maroc, c'est pas pour les questions libyennes, je crois pas trop à ça. Je pense qu'il s'est précipité
parce qu'il a reporté le voyage qui était prévu en février.
Oui, mais c'est des raisons économiques. Il faut savoir que Rabat avait signé un accord avec la France pour faire son fameux TGV qui relie donc Gaza à Tanger.
Ouais.
J'ai eu l'occasion de le voir. Et l'extension du TGV aurait dû être prise par les Français, par Alstom et tous les groupes. Et finalement, les Marocains, en ayant reçu il y a deux ans Xi Jinping, responsable de la Chine, c'est la Chine qui semble avoir remporté, le marché pour 4 fois moins cher. Donc là, les Français l'ont eu mauvaise parce qu'ils pensaient qu'ils avaient le marché éternellement. Et les Chinois et les Marocains commencent à se tourner vers d'autres partenaires. Donc si c'est une des raisons pour lesquelles, c'est un gros morceau quand même, Macron a voulu se déplacer au Maroc.
Ce drame de la France qui pense que l'Afrique lui appartient éternellement.
C'est malheureusement. Ouais.
On a toujours cet esprit un peu colonialiste.
Néocolonialiste, pour être. Oui, néocolonialiste. Parce que c'est un nouveau colonialisme. Mais effectivement, il existe toujours parce qu'il y a un rapport France-Afrique qui est très présent. Moins présent en Afrique du Nord, mais il existe. Vous allez au Maroc, par exemple, pour vous donner une idée, quasiment toutes les sociétés qui sont là-bas sont françaises. C'est impressionnant.
Ouais. Ils sont un peu chez eux, quoi.
Malheureusement.
Ouais. 01 40 33 9000. Dans un instant, on va parler des municipales. Notre invité qui n'est pas encore arrivé, j'espère qu'il sera à l'heure, hein. Julien Bellezy, donc, dans un instant, candidat En Marche du côté de Saint-Ouen, sur France Maghreb 2. Et puis, évidemment, l'éternel, l'incontournable zapping. Avec du bon, hein. Tiens, j'ai un petit truc pour toi, Gamal. J'ai du Zemmour. Voilà. Oh, je sais que ça te ferait plaisir.
Mon pote.
Pour commencer un lundi. En plus, pas avec n'importe quelle déclaration, hein, à propos des enfants migrants. En fait, lui, il s'en fout. Voilà. C'est pas son problème. c'est du Zemmour, quoi, en fait. Ouais, hein, ouais. Rien de dramatique. Enfin, si, c'est choquant, mais évidemment, pour lui, à son stade, c'est pas dramatique. Ouais. Donc, tout à l'heure, dans le zapping, à ne pas louper, Abdeslam Itach et Gamal Abila sont là, messieurs, dames, sur France Maghreb 2, dans votre émission quotidienne, Le Grand Forum. Merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le Grand Forum. En ce lundi, soyez les bienvenus avec Gamal Abina et Abdeslam Itach qui sont avec nous aujourd'hui. Jusque 18h, on recevra Julien Balaisi dans quelques instants, candidat à Saint-Ouen, qui viendra se présenter à vous, auditrices, auditeurs. Tiens, première petite colle, est-ce que vous savez comment on appelle les habitants de Saint-Ouen?
Les Odoniens.
Les Odoniens. Je savais pas, moi. Gamal?
Non, moi je connaissais les Dionysiens là, pour Saint-Denis, mais.
Ah oui.
C'est pas les Saint-Ouanistes.
Les Saint-Ouanistes. C'est
Odonien,
pas mal. Bon, je vous rappelle la question du jour. La France, qui est le premier pays européen à déceler des cas de coronavirus sur son territoire, craignez-vous une propagation de l'épidémie? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez, bien sûr, pour nous donner votre avis. Sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, Le Grand Forum FM2, pour nous appeler. Vous, peut-être, avez-vous cédé à la psychose? 01 40 33 9000, ou alors vous avez complètement pris du recul en disant c'est bon, il faut qu'on arrête, on en fait trop comme d'habitude. 01 40 33 9000, voici le zapping de ce qu'il fallait pas louper, ou peut-être d'ailleurs louper, à la télé ou à la radio.
Si on prend 100 millions d'Africains
d'un remplacement de population,
bon, ben voilà, parce que les mots bamboula, d'accord,
c'est maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba.
La réémigration, c'est le départ des immigrés.
Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible?
Donner une bonne dose de cheval.
Je vote pas de votre calme, mais je me sens très bien.
Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons.
Alors messieurs, il y a du lourd dans ce zapping aujourd'hui. Il était l'invité de Bourdin ce matin, Benjamin Griveaux, à propos de la réforme des retraites. En évoquant son cas personnel, il ne sait pas, monsieur Griveaux, à quel âge il pourra prendre sa retraite, d'où ce changement de système à travers cette réforme nécessaire selon lui.
On sait qu'il va y gagner, hein, les 25% des retraités les plus modestes,
oui.
Les femmes,
oui.
Mais on ne sait pas qui seront les perdants.
Les carrières hachées aussi, quand on, oui, a moins de, oui, 150 heures par trimestre, et c'est des choses importantes, hein, parce que c'est beaucoup de personnes qui, au fond, sont fragiles, travail insuffisamment pour rentrer dans le système. Et donc l'idée de se dire, ce qui était au cœur de la du projet qu'a porté le candidat Macron, puis le président et désormais le gouvernement, c'est de dire que chaque heure travaillée ouvre des droits, que rien ne passe à travers les mailles du filet, que tout est comptabilisé. Et c'est vrai que ça améliore franchement la situation pour des gens qui ont des carrières hachées, compliquées.
Mais, et qui à sont nouveau, les perdants à,
mais vous savez, les gagnants à l'issue de ce système, c'est que nous avons une répartition qui est garantie, un système par répartition. Nous avons une pérennité financière du système qu'aujourd'hui nous n'avons pas. Et surtout, un peu de lisibilité. Moi, j'ai 42 ans, je suis incapable de vous dire, Jean-Jacques Bourdin. Moi, j'ai eu une carrière assez hachée, pas totalement linéaire. J'ai été au RSI parce que j'ai créé des boîtes, donc j'étais pas salarié. J'ai eu des statuts différents. Je suis incapable de vous dire aujourd'hui quand est-ce que je vais prendre ma retraite et quel en sera le montant. C'est pas normal. Et donc, c'est aussi cela qu'on va mettre dans cette réforme.
Comment mieux que de prendre son cas personnel pour essayer de trouver un argument pour défendre cette réforme des retraites, Abdeslam Itach, hein?
Oui, alors moi, sur cette réforme, une chose, moi je suis contre les 42 régimes spéciaux. L'idée c'est d'avoir quelque chose d'uniforme et de permettre justement à ce que tout le monde ait une retraite décente et qu'il n'y ait pas de privilégiés. Ensuite, moi je peux comprendre, et c'est légitime, que les gens veuillent une mesure qui soit sociale et qui permette un nivellement par le haut.
Voilà.
Ça c'est une certitude. Alors, Benjamin Griveaux prend cet exemple d'une carrière hachée où il était auto-entrepreneur à un moment, à un autre moment il était plus en activité et puis ministre, faut pas l'oublier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je peux comprendre qu'il y ait une incompréhension, mais je pense que l'erreur du gouvernement aujourd'hui, c'est d'avoir manqué de pédagogie. On n'a pas assez expliqué les choses, et du coup, ben, on se retrouve avec des syndicats qui se braquent. Ensuite, sur les syndicats, je vais vous dire une chose, ils ont leur part. Les syndicats aujourd'hui ont un besoin existentiel. Ils ont besoin d'exister. Ils sont en perte de vitesse. Ils ont besoin de montrer leurs muscles pour justement faire réadhérer les gens dans les mouvements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde pense que c'est la CGT qui est la première, c'est la CFDT où il y a le plus d'adhérents.
Selon les calculs.
Non, pas selon les calculs.
Ouais, selon les calculs.
Donc faut juste arrêter avec tout ça. Et je pense que le mieux, c'est de réunir tous les gens autour d'une table et pouvoir discuter. Et moi, je vous dis encore, moi, je suis pour un nivellement par le haut et permettre aux gens, et bien sûr, mais je l'ai toujours combattu, mais... et dénoncé ici, les personnes âgées qui touchent un minimum vieillesse, qui n'arrivent pas à vivre et qui passent toute leur pension dans leur loyer et qui font les fins de marché pour ramasser les légumes à même le sol pour manger. Et je vais vous dire une chose, une société qui prend pas soin de ses anciens, c'est une société qui est perdue.
Alors on va prendre l'exemple, par exemple, d'un cas particulier, des avocats. Ceux qui cotisent eux-mêmes pour leur retraite.
Ils ont une caisse qui est excédentaire.
D'accord, qui ne coûte aucun argent aux contribuables.
Oui.
C'est eux qui cotisent. Aujourd'hui, on est en train de leur dire, ouais, vous allez faire partie du système général. Ça les intéresse pas.
Bien sûr que ça les intéresse pas.
Et puis tous ceux qui ont cotisé, on va faire quoi de cet argent?
Alors Christophe, je vais te prendre un exemple. J'ai encore des enfants à l'école. Mais dans 20 ans, je continuerai à cotiser pour l'éducation nationale. D'accord? Sur mes impôts, je continuerai à payer ma part. Je pense que ça fait partie de la solidarité nationale. Et qu'à un moment, il faut pas qu'on se dise, moi, je veux les 100% de ce que je donne en impôts. Je suis désolé. La solidarité nationale, c'est aussi ça.
Mais la solidarité, c'est l'aide avec les députés, les sénateurs, ils ont qu'à s'y mettre
ouais,
aussi.
Mais c'est un peu facile de justement.
Non, c'est pas facile, non, c'est la vérité.
Tu t'adresses, tu
Ils ont des privilèges. À en plus finir, et on demande aux Français de se serrer la ceinture et de renoncer à leurs acquis.
Je peux dire que moi je suis contre les privilèges, je l'ai dit en préambule, j'ai commencé par ça.
Les privilégiés, ce sont les têtes de la République.
Mais le problème, c'est qu'il y a 231 ans, on a fait une révolution qui devait abolir les privilèges.
Ouais.
Ensuite, évidemment, la bourgeoisie s'est largement accommodée des avantages qu'ils allaient en tirer, puisqu'ils ont flingué l'aristocratie pour des raisons qu'on connaît très bien historiquement. Et le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire que quand le Conseil national de la résistance, le CNR, a mis en place ces dispositifs, c'était une époque où évidemment on sortait d'une guerre violente et surtout une époque où on devait reconstruire un pays.
Ouais.
Donc il fallait favoriser ceux qui avaient un métier difficile, parce qu'à l'époque être cheminot c'est pas comme aujourd'hui évidemment. Et il fallait tout faire pour préserver ce qu'on appelait les entreprises stratégiques. d'un pays qui était quand même, qui avait perdu la guerre, qui s'apprêtait à perdre toutes ses colonies et qui était en perte de vitesse en termes de résonance internationale, de puissance économique et politique. Donc quand De Gaulle fait ça, il fait ça pour préserver un pays. Après, il y a 30 glorieuses qui se constituent, donc 30 années de croissance pleine. Personne ne se pose la question de savoir s'il y a des retraites, puisqu'on pense même pas qu'il y aura des problèmes de retraite. Puis après, les crises s'installent entre 73 et 79, les crises pétrolières, surtout 79, parce que 73, ça a très peu impacté la France. Vu que la France a une position équilibrée à ce moment-là avec Jobert.
Enfin, il y a eu quand même une réaction. On n'a pas le pétrole, mais on a les idées.
Oui, là, ça c'est le racisme. C'est les gros fachos qui
parlent. Oui,
ça.
Mais c'était une façon aussi de chercher à muter vers un autre.
Oui, mais ça c'est.
Et y a peut-être à la fois réduire la dépendance
et les
au pétrole.
Racistes,
oui, il oui, y a un message derrière, en effet.
Voilà, les autres sont des crétins, ils ont du pétrole, nous on a les idées. Mais bon, là, ça, je veux dire, c'est qu'il y a une dégradation en 70 de la situation, mais on ne pense pas qu'elle va durer. Et quand Mitterrand prend les commandes en 80, il accélère la dégradation de l'économie française en surendettant le pays. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a effectivement des vieux retraités, souvent du privé, qui touchent des retraites ridicules, 350, 400 euros, qui vivent dans la misère noire. Et on a ces régimes spéciaux qui vont monter les retraites jusqu'à 3000, 4000 euros par mois. Il faut le savoir, hein, c'est pas du tout une blague. Hein. Donc moi, je suis pas en train de dire qu'il faut que ceux qui sont dans les régimes spéciaux soient impactés négativement. Je pense qu'il faut un nivellement par le haut, mais pas avec des privilèges. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse avoir une retraite digne. Je considère qu'une retraite digne, c'est minimum 2000 euros par mois. Je considère qu'il est pas normal, par exemple, les syndicats qui tu viens d'en parler, sont en perte de vitesse. Là, ils viennent de signer leur arrêt de mort. On a vu la tête de Martinez quand il sort de sa rencontre avec Macron. Il a tout perdu, il n'a rien gagné. Et il se rend compte que les gilets jaunes, avec 2-3 cailloux dans la tronche de CRS, excusez-moi pour le propos, je caricature, les gilets jaunes ont obtenu 10 milliards que lui n'a pas pu obtenir pour défendre les intérêts de cette petite caste de cheminots, RATP. Donc lui, s'est planté, et ça veut dire qu'il a signé l'arrêt de mort des syndicats. Là, clairement, les syndicats sont finis. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quoi? C'est savoir est-ce que Macron communique bien? Non, il communique très mal. Il a fait la réforme des RSI, elle est très bien cette réforme, elle a abouti enfin. Merci Macron, on peut le dire. Après, ces passages en force, c'est pas la communication, c'est la violence. C'est une violence sociale. Au lieu de dire aux gens, on est dans la galère, il y a 2000 milliards de dettes, on s'en sort pas, de toute façon vous aurez plus de retraite après moi. 2300, on est monté. Il n'y a pas de solution, on doit faire quelque chose, je vous demande de m'écouter. Non, lui dire, on va le faire de force. Quand on fait des choses d'autorité dans un peuple qui a souvent, là on parle des Gaulois pour faire une caricature encore une fois, le sentiment de, oui, ben c'est un peu le réfractaire, voilà, un petit peu énerveux, un peu violent, un peu fier. On ne peut pas leur dire, bande d'abrutis, vous avez rien compris, je vous impose ça. Non, il aurait fallu discuter avec eux. Je parle pas des syndicats, je parle vraiment du peuple. Une communication d'État vers le peuple et une communication sincère. Et ça, malheureusement, Macron et tous ses conseillers qui sont vraiment, vraiment très mauvais n'ont pas su le faire.
J'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous êtes en direct sur France Paris 2 dans le Grand Forum, évidemment, avec Abdeslam Itache et Gamal Abina. Puisqu'on parlait de Griveaux, on l'a écouté, Cédric Villani a été convoqué, il n'y a pas d'autre terme, par le président Macron hier, l'invitant à se ranger derrière Griveaux. Ce à quoi Villani a dit absolument pas, je ne me rangerai pas à la demande expresse du président, je reste au service des Parisiennes et des Parisiens. Il risque d'être exclu. Est-ce que vous pensez que c'est bon augure à ce que le président se mêle des affaires parisiennes pour En Marche?
Non, je pense qu'il doit être au-delà des partis. Quand on choisit d'être président de la République, on cesse d'être justement dans l'appartenance. Le chef de parti. Il représente tous les Français.
En Marche, qui n'est pas un parti, mais un mouvement.
Non, c'était En Marche, c'est devenu La République En Marche. Ouais. Donc c'est devenu un parti avec des statuts, avec une organisation. On peut la discuter, si vous voulez. Mais c'est un parti. Non, mais ça nous prendra.
Non, il y a une réalité, la raison.
Non, mais
Monsieur Macron commet une faute de fonction. C'est un président qui est là pour présider un pays et non pas pour présider un parti. C'est fini, il n'est plus président d'un parti. Il est président d'une république qui doit parler à tout le monde. Et là encore une fois, quand il prend position et qu'il vient s'immiscer dans une campagne dans laquelle il n'y a aucun droit, parce que lui c'est président vraiment de l'international pour le coup, fait une faute.
Mais Sarkozy avait fait la même, lorsqu'il avait invité des hommes d'affaires dans un hôtel prestigieux à Paris pour collecter de l'argent pour sa campagne. Là il est sorti de sa fonction de président et c'est juste inconcevable.
Tu veux dire que Sarkozy a invité Kadhafi?
Alors, c'est pas le même, je n'irai pas jusque-là, je ne parlerai pas des 50 milliards de Kadhafi. 50 millions, ça fait
50 millions. 1 million.
50
millions,
je ne parlerai pas des 50 millions de Kadhafi, je n'en ai pas la preuve, mais ce que je veux juste dire, c'est que il faut bien penser à une chose. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on recevra Julien Balaisi. Une chose, lorsque l'on devient maire, lorsque l'on devient président ou autre, on devient maire de toute la ville, de tous les habitants, même ceux qui n'ont pas voté pour vous. Et ben c'est exactement la même dans un pays. On n'est pas, on devient pas le président des électeurs de la République en marche. On devient le président de tous les Français et même ceux qui ne sont
donc
pas.
Donc faute politique pour vous, hein, Macron.
Ouais, moi je pense qu'il n'aurait pas, dû.
Villani, qu'est-ce qu'il va faire lui? Bon, il
fera le vilain. Villani.
Non mais
pas mal.
Voilà.
Non non mais
en marche, on peut le dire tranquillement. Non mais a perdu Paris.
Voilà. Ils ont pas gagné. De toute façon, faut être clair. En marche, n'aurait jamais gagné.
Décision,
ils n'auraient jamais gagné Paris.
Non, mais ils gagneront pas Paris, Abdeslam. Quand on regarde le sondage, Anne Hidalgo est largement en tête et il y en a une qui a profité de cette division. Elle s'appelle Rachida Dati.
On peut parler des sondages.
Oui, vas-y.
Édouard Balladur était en tête dans les sondages.
Oui.
Lionel Jospin était en tête dans les sondages.
Oui.
D'accord. François Fillon était en tête dans les sondages.
Ils sont tous ces gens. Fillon était sabré.
Non, non, mais il a été sabré, mais
s'il avait pas été sabré, il est loin.
Donc la preuve. Alors et il y a une chose que les Français détestent, c'est que les sondages décident pour eux.
Ouais.
Sachez-le.
Peut-être.
Oui, mais dans les faits, à Paris, il y a une réalité.
À Paris, voilà.
Quand Chirac se présente, on sait qu'il va gagner avec les sondages.
Oui, il fait le grand chelem.
Voilà. Et elle fera de même parce que son mandat, et comme d'ailleurs ce prédécesseur, son mandat est excellent. Faut être honnête, hein.
Oui, c'est pareil.
Moi, j'aime pas le personnage.
Rachida Dati est deuxième. Tu peux pas présumer.
Si, elle a aucune chance.
Mais t'en sais rien.
C'est une certitude. Gamal. Non, le bobo parisien, elle ne sera pas passé.
Tu ne peux pas décider.
Il ne sera jamais passé. Non, j'y crois pas. Le bobo parisien, elle ne sera jamais passé une date.
Donc on n'est pas en débat.
En fait, le problème, c'est le prénom, en fait. Si j'ai bien compris.
Oui, un peu de ça. Il y a un petit peu de ça.
Voilà. On va du côté de Metz. C'est quoi le prénom déjà? Riyad, c'est ça? Allô?
Yahya,
pardon. Bonjour Yahya. Comment il va Yahya?
Salam alaikum, alhamdoulilah, grâce à Dieu.
Bon, alors comment ça se passe à Metz là?
Bah, il pleut, temps gris, hein.
Bah, ouais, non.
J'étais sûr qu'il pleuvait.
Attends, mais on a habitué dans la Lorraine, de toute façon. C'est soit il pleut et il fait gris, soit il fait froid.
Soit il fait gris et il pleut.
Voilà, c'est ça.
L'été, il commence le 1er juillet, il finit le 15 juillet, je sais
pas. Ça donne pas envie, dites donc, hein. Bon, Yahya, qu'est-ce qui se passe? Tu voulais intervenir sur quoi, Yahya?
Ouais, moi, je voulais intervenir sur les retraites parce que j'en entends parler beaucoup, je regarde la télé, tu vois, je m'informe et tout, mais en fin de compte, il n'y a rien de clair dans leur histoire, là. Quand tu sais, quand tu vois que là j'entendais la première dame de France qui s'augmente de 440 000 euros par an à 550 000 euros par an, ça fait une augmentation de 20%. Et quand je vois que moi je travaille au SMIC et qu'ils font une augmentation
c'est de l'intox.
Après une 15 euros,
elle ne perçoit aucun salaire.
Mais non, c'est pas vrai.
C'est des bêtises, Yahya.
Oui, mais bon.
Non, c'est
même
des bêtises.
Quand on augmente le SMIC, on n'augmente pas le SMIC de 15 euros.
Yahya,
non, mais faut pas dire
l'histoire de cette première dame de France.
Elle ne touche pas de salaire. Elle a un staff autour d'elle qui coûte de l'argent.
Il y a un coût, mais c'est pas
un salaire.
Mais
elle ne perçoit pas de salaire.
Ouais, mais excusez-moi, les croyants, mais ça, c'est qui paye? C'est le contribuable?
Mais bien sûr,
évidemment.
Oui, évidemment.
Voilà.
Mais quel que soit le président, on paye.
Mais moi, je trouve plus choquant. Je trouve plus choquant. Quand Sarkozy était aux commandes, parce qu'on l'a oublié celui-là, qu'il se soit augmenté de 140%. Non mais faut se rappeler, 140% d'augmentation, et l'Assemblée nationale a accepté l'augmentation parce qu'elle était augmentée aussi.
Bah oui, voilà.
Celui-là, de toute façon, j'ai un souvenir en tête qui me revient.
C'est quoi?
C'est quand il a invité Kadhafi à Paris, à l'Élysée, avec des poils de tente, des chameaux, des
magnifique, magnifique.
Et après, au final, d'aller chez lui 2 mois après pour aller les zigouiller.
Ouais, c'est horrible.
Donc, lui, je pense que c'est le pire qu'on ait eu.
Oui, je suis d'accord.
De toute façon, la vérité en France, depuis Jacques Chirac, ça a été le bazar sans nom. Les uns et les autres qui sont venus au pouvoir, ça a été de mal en pire.
Je suis assez d'accord avec lui.
Mais avant lui, ça a été aussi le bazar.
Oui, avec Mitterrand, c'est pire.
Ouais, avec Mitterrand, c'était encore pire.
Non, mais il y a eu des... comment dirais-je? Il y a eu des... comment on appelle ça? Aidez-moi les gars, là, 2 ans avant, il y a eu des...
Tu parles de la cohabitation?
Cohabitation, merci. Et Chirac, Premier ministre en
1986. Oui, mais la Mitterrand,
Balladur en 1993.
Mitterrand, 14 ans de politique internationale calamiteuse.
Mais
destruction de l'économie française, et c'est quand même Mitterrand, pas oublié.
Mais la destruction de l'économie française...
Oui, bien sûr. Mitterrand, ça n'a pas été le mieux. Mais bon, Mitterrand, à la rigueur, moi, quand je veux dire, j'étais pas trop intéressé, on va dire, à la politique. Mais quand j'ai commencé à grandir et que j'ai vu même une fois Jacques Chirac, le truc qu'on a vu quand il a été en Algérie et qu'il a été acclamé de tous les côtés,
et qu'après
qui s'est opposé à la guerre en Irak,
c'est celui qui a dit non.
Franchement, je lui tire mon chapeau à ce monsieur.
Après, on peut dire qu'en Syrie, le Liban, il a pas été bon non plus, faut le reconnaître.
Mais Gamal, tu parlais de l'endettement de la France et la gestion calamiteuse de Mitterrand, mais faut pas oublier que sous Giscard, c'est sous Giscard qu'on a arrêté de frapper la monnaie en France.
Oui, mais la gestion de l'État était bonne. Barre, bien géré l'État.
Oui, d'ailleurs, c'est un très bon économiste, Raymond Barre.
si je peux intervenir,
un homme carré dans un coron, c'est ce qu'il disait. Là
aussi. Oui, vas-y.
Alors là aussi, j'en ai une bonne sur Giscard d'Estaing. Alors, deux années de suite, j'étais à Saint-Raphaël, hein,
oui.
dans un coin qui s'appelle le Cap d'Estérel.
Ouais.
Donc c'est un truc genre villa, bungalow, appartement, standing et tout. Hein. Moi, j'avais été avec le CEO de mon travail. Parce que, la vérité, avec les moyens que j'ai, j'aurais pas pu y aller. C'était 3000 euros la semaine. Avec mon CEO, c'était 700 euros plusieurs fois.
Ah ouais, sympa, ouais.
Donc c'est bien, ouais. Parce qu'avant, je travaillais dans une multinationale américaine, donc voilà.
Ah oui.
Et j'y suis parti en vacances. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré des personnes âgées qui me disaient, vous savez, tout ça, avant, c'était de la friche. Et ça valait un petit peu d'argent. Et bizarrement, ça a cramé du jour au lendemain. Et quand ça a cramé, ça valait plus rien. Et ça a été racheté par qui? Par Giscard d'Estaing, qui aujourd'hui possède tout le terrain, tout le complexe, c'est à lui. Donc vous voyez, je veux dire, même ils ont tous des casseroles. C'est même plus des casseroles, c'est des cuisines entières.
Vous faites quoi comme travail, Yahya, dans la vie, vous faites quoi?
Moi, là, je suis aujourd'hui préparateur de commandes.
Préparateur de commandes. Bah écoutez, la pénibilité, on peut en parler aussi, hein, c'est pas mal. Ouais, merci beaucoup, en tout cas, Yahya.
Alors, moi, je t'explique, Christophe, je travaille dans un congélateur à moins 20 degrés.
Ouais.
D'accord. Donc, je marche toute la journée avec un gerbeur.
Ouais.
D'accord, on appelle un tirpal, hein, vulgairement.
Un gerbeur, c'est quoi? C'est pour
un tirpal électrique, en fait.
Tous les restaurateurs, ceux qui ont des cantines, des lycées, des écoles et tout ça. Donc, je prépare environ entre 1,5 tonne et 3 tonnes de marchandises par jour. Je commence à 9h et je finis à 16h30. Bien sûr, la loi, elle m'autorise à travailler que 1h30 à moins 20 degrés. J'ai pas le droit de rester plus longtemps. Voilà. Mais voilà, quand j'entends parler de la pénibilité, comme ce matin, parce que tous les matins, j'écoute RMC, et quand je pars, et que j'entends celui-là qui se présente, celui-là, je sais plus son nom, qui se présente à la mairie de Paris.
Griveaux.
Dis-moi, j'avais une RCI, une je sais pas quoi, et à moi-même, à ma retraite. Arrêtez, il voudrait qu'on pleure encore là.
On pleure pour lui. Merci, Yahya.
Moi, je travaille à moins 20 degrés et je travaille pour une misère, pour un SMIC de 1200 euros par mois. Et quand j'arrive à la fin du mois, j'ai un crédit. Le crédit me coûte 800 euros par mois. Quand on va chez Lidl maintenant, un caddie vous coûte 250 euros par mois.
Non, mais c'est clair. C'est de la réalité, les gars. C'est pas de la télé-réalité, c'est de la réalité du quotidien, les amis.
C'est la réalité du quotidien. Même en travaillant, je vous dis la vérité.
Même en travaillant, on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas. Moi, je travaille et je vous dis la vérité. Des fois, je fais même des extras. C'est des extras dans la restauration, parce qu'à la base, avant, j'étais dans la restauration, et j'ai arrêté par rapport à mon enfant, pour avoir les mêmes horaires que lui sur l'école. Ouais. Et des fois, j'étais obligé de faire des semaines de préparateur de commandes, et genre, ma journée du vendredi, donc j'enchaînais de 9h du matin à 17h, donc préparation de commandes, et après, j'allais à 19h30 au stade du SMS, où j'étais chef de rang, maître d'hôtel, pour dans les loges du SMS. Donc je me tapais des journées donc de 9h du matin à 1h du matin le soir, pour au final... pas s'en sortir du tout.
Ouais.
Quand on voit que la plupart, ils s'en mettent plein les fouilles.
Yahya, tu sais, à l'époque, il y a quelques années en France, je me souviens que mes grands-parents faisaient à peu près le même nombre d'heures, sauf qu'ils y arrivaient mieux.
Il
y avait peut-être pas plus d'argent, mais en tout cas, ils avaient un meilleur.
Le coût de la vie était moins élevé.
Voilà, le coût de la vie était moins élevé. Et surtout, voilà, il y avait aussi un meilleur confort dans le sens, voilà, les gens étaient quand même beaucoup plus tranquille.
Mais il y avait plus de pénibilité au travail.
Ouais, évidemment. Attends, là, c'était des trucs de ouf. Hein.
Mais là, je vous dis la vérité, hein, les gros. On n'y arrive pas. Hein. Même qu'on tire à droite, à gauche, on court, on économise à droite, à gauche. L'essence, ils n'arrêtent pas de l'augmenter, l'essence. Le pétrole, il n'a jamais été au plus bas. À la pompe, il n'a jamais été au plus haut. Moi, j'habite juste à côté du Luxembourg. J'habite à 50 km du Luxembourg. Comment que ça se fait qu'au Luxembourg, le gasoil, il arrive à être à 1,10 €? Et chez nous, il est à 1,40 €.
Moi, je vais très bien. Taxe intérieure sur les produits pétroliers. Voilà. C'est une taxe qui coûte ça, 80% plus, de l'essence.
Ça, plus ouais, la TVA la taxe, qui est ajoutée sur la TIPP. Non, enfin, la TICPE.
C'est un scandale.
Et en fait, je vais te dire, quand tu mets 100 euros de gasoil dans ta voiture, il y a 80 euros de taxe. Voilà. Ouais. Pour 380.
T'imagines, s'il te plaît, la taxe, moi, je vois que je suis d'origine algérienne. Tu sais, moi, je vais souvent au bled, je vais souvent en Algérie.
Là-bas, c'est 8 centimes.
Moi, c'est 11 centimes.
Ils sont augmentés.
Moi, je suis d'origine de Boufarik, hein. Donc, moi, j'y vais souvent. Et quand je dis à mes collègues de travail que quand je vais en Algérie, la bouteille d'eau.
Tu fais le plat à 5 euros. La bouteille d'eau coûte plus cher que.
Et que le litre d'essence coûte 20 centimes d'euros. Et mes collègues au travail, ils me disent, mais comment c'est possible? Ben, je dis, ouais, ben, nous, si tu veux, l'essence, elle est chez nous, mais. De l'Algérie, ou même que je sais pas s'ils prennent le pétrole en Algérie ou qu'ils le prennent, tu peux pas passer de 20 centimes à 25 centimes d'euros le litre, à toi nous le vendre à 1,40 à la pompe.
Non, mais l'essence est importée en Algérie, il faut le savoir.
Merci beaucoup en tout cas, Yahya. Oui. Bon, à bientôt, Yahya. Salut mon pote,
bon
à bientôt. On va du côté de Rennes, les amis, avec Hicham. Salut Hicham.
Ouais, salam alaikum à toute l'équipe. Salam Christophe.
Salut Hicham, bienvenue à toi dans le Grand Forum. Qu'est-ce qui se passe, Hicham?
Ah bah, je vais juste réagir par rapport à ce que disait l'auditeur de tout à l'heure.
Ouais.
Ah bah, franchement, il a résumé parfaitement la situation de notre situation d'aujourd'hui.
Tu fais quoi dans la vie, Cham ?
Je suis routier.
Routier, ah, ça c'est un boulot aussi très 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 pénible. Tu pars à la semaine ou à la journée ?
Malheureusement, je fais du on va dire du régional, régional départemental.
Ouais.
Mais honnêtement, vu que en plus on est en location et tout, et des fois aujourd'hui on peut plus trop mettre d'argent de côté, comme disait l'auditeur tout à l'heure. Du coup on va être condamné à rester en location toute notre vie, puis avec une retraite de misère, à mon avis, vu comment c'est parti, avant les anciens ils pouvaient mettre d'argent de côté pour pouvoir faire des projets dans l'immobilier, etc. Mais aujourd'hui on peut plus rien mettre de côté, on est des esclaves. Tout ce qu'on a, on leur file dans les taxes, les charges, l'assurance des véhicules, les gamins pour l'école, les gamins, voilà, il faut leur, vu qu'on les a mis au monde, il faut être à la hauteur pour pouvoir leur financer leurs études, entre guillemets.
Ouais.
Mais là, franchement, vu comment c'est parti déjà en février, les gamins pour véhiculer une éducation, puis avoir aujourd'hui, faut pas pleurer, faut avoir des diplômes pour s'en sortir.
Et encore.
Gamal, exactement. Et les assurances loto, ça explose. L'assurance habitation, ça explose. Pour l'école maintenant, même à l'école, j'ai remarqué que il y a certaines profs qui se plaignent du nombre de gamins qu'ils ont. Une prof ou un prof. 35 élèves, mais c'est un quart qui est là. Comment vous voulez qu'ils gèrent tout ça ?
C'est clair. Alors c'est 25.
Pas partout, non, je t'assure que non. Mais
c'est la loi.
Mon fils, par exemple, est en terminale, ils sont 35. Hein.
Non, mais je parle des écoles primaires.
Mais comment vous voulez qu'ils gèrent tout ça ? C'est carrément un quart.
Surtout au collège, c'est compliqué.
Et du coup, au bout d'un moment, je comprends que qu'ils jettent l'éponge. C'est pour ça que, honnêtement, il y a des soucis partout, dans des points clés.
Ouais.
Ce qui fait que, l'homme, je dis pas qu'il faut être rapide et puis ne rien dépenser. À un moment donné, on dépense que le minimum pour pouvoir vivre. Et puis, maintenant, on survit. Et puis, le carburant, tout augmente. Puis, à un moment donné, on se retrouve un peu de limite. Même ce qu'on a mis un peu de côté, on commence à taper dessus pour pouvoir être pouvoir payer ses charges.
Ouais.
Moi, même mon épouse, elle est infirmière.
Ouais,
et donc, et le problème, c'est que, en tant qu'infirmière, on sent que, au boulot, quand elle revient le soir, puis des fois, elle est obligée d'être rappelée pour aller refaire des nuits.
Ouais.
À un moment donné, on a plus de vie.
Ouais, bien sûr, c'est difficile.
C'est soit on a plus de vie. Ouais. C'est soit on a plus de vie. Comme moi, je suis routier.
Et voilà, l'infirmière, c'est compliqué.
Encore moi, je vais être timoreux. Parce que, je suis pas loin de. Je fais pas du national.
Merci Cham, en tout cas, merci beaucoup pour nous avoir fait partager la vraie réalité du quotidien, mon Hicham. Merci, bon courage, à bientôt. Et prudence sur la route, mon garçon. Allez, dans un instant, on finit le zapping et on accueille notre invité. On va parler des municipales, ami auditrice, auditeur de Saint-Ouen dans le 9-3. Un candidat qui se présente à la mairie de Saint-Ouen, qui s'appelle Julien Balaisy, sera avec nous dans un instant.
France Maghreb 2.
Le LGF, messieurs dames, Gamal Abina, monsieur Absemitage sont là évidemment pour vous accompagner dans un instant. On parlera des municipales, tous les jours on reçoit des candidats. On ira à Créteil, à Blanc-Mesnil, du côté de Garches cette semaine, et tout à l'heure dans quelques minutes à Saint-Ouen dans le 93 avec Julien Balaisy, candidat En Marche, qui se présente donc à la mairie de Saint-Ouen dans quelques instants.
Saint-Ouen-sur-Seine, c'est ça. Ouais.
Saint-Ouen-sur-Seine,
c'est ça.
Ouais. Dans le 9-3. C'est ça. Oui,
ouais, c'est
très belle ville. Non,
ça n'a pas bougé. C'est pas passé de l'autre côté du périph'.
Très belle ville. Voilà. On va en parler dans un instant, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur Saint-Ouen, quand même. Bon, vous savez, messieurs, que le monde du sport est en deuil après la disparition suite à un accident d'hélicoptère de Kobe Bryant, le basketteur. Reportage de France 24 avec justement cette population aux États-Unis qui s'est empressée pour lui rendre hommage.
C'est devant la salle des Los Angeles Lakers, là où Kobe Bryant a brillé, que ses fans se sont donné rendez-vous.
On est venu rendre hommage à toute la communauté des Lakers, à tout le peuple des Lakers, et rendre hommage à Kobe après ce qui s'est passé.
Sur les réseaux sociaux, les grands noms du basket américain multiplient les hommages. Magic Johnson estime que les mots ne peuvent exprimer l'impact que Kobe Bryant a eu sur le basketball. Autre légende des Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar a publié une vidéo.
Kobe était un incroyable père de famille. Il aimait sa femme et ses filles, il était un athlète incroyable et un leader à bien des égards. Il a inspiré toute une génération de jeunes athlètes.
Des hommages qui dépassent largement le cadre du basket. Ainsi, lors de la cérémonie musicale des Grammy Awards qui se tenait au Staples Center, la chanteuse Alicia Keys lui a adressé ses adieux.
Nous sommes profondément tristes. Car aujourd'hui, Los Angeles, l'Amérique, le monde entier ont perdu un héros.
Parmi les très nombreuses réactions, celle aussi de Tiger Woods.
Il était si compétitif et il brûlait d'envie de gagner. Il a porté cela chaque soir sur le parquet.
L'ancien président Barack Obama salue une légende, tandis que son successeur Donald Trump évoque l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Dehors, devant le Staples Center, à la nuit tombée, les fans continuaient à se recueillir.
Une véritable légende du basket qui s'en est allé, messieurs, avec 41 ans, donc victime d'un accident d'hélicoptère. Même Neymar lui a rendu hommage hier lorsqu'il a marqué son but au Parc des Princes. Je sais pas si vous êtes très sport ou en l'occurrence très basket, messieurs.
Non, pas du tout, mais
pas du tout.
Mais je connais, bon, je connais forcément.
Ouais.
Mais les Lakers, on les connaît forcément pour leur performance des années 90, mais surtout. Je pense que ce qui a marqué les gens, c'est le fait que d'abord qu'il est mort à 41 ans très jeune dans un accident,
ouais,
c'est inattendu, ouais, avec sa fille surtout, pas le perdre de vue,
ouais,
donc paix à son âme. Puis surtout, je pense que c'est le basket, c'est un monde particulier aux États-Unis. C'est une véritable, c'est les icônes littéralement, que ce soit Magic Johnson ou Mike Jordan, tout ça, c'est des gens qui ont quand même marqué une époque,
bien sûr,
très forte. Et quand ils voient un homme qui était sympa de prime abord mourir dans des circonstances tragiques, forcément, il y a une émotion qui se crée très rapidement. Mm. Il a, ça devient littéralement une icône, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Donc.
Ah, mais Sam, ça te rappelle ton époque?
Oui, oui, j'ai bien connu cette époque-là. C'était l'époque des Lakers de Los Angeles. La Dream Team aussi aux Jeux Olympiques.
Ouais,
avec Shaquille O'Neal, Michael Jordan. Oui, non, j'ai bien connu cette époque-là. Et, ouais, en effet, c'est l'icône qui part. Hein. C'est la vie.
Et apparemment, l'hélicoptère volait trop bas.
C'est possible.
Voilà, bon, visiblement, il y a eu un petit problème au niveau de l'hélico. Tiens, Éric Zemmour, s'il vous plaît. Voilà. Alors, quand on lui pose la question. Sur le sort des enfants migrants en Méditerranée.
Quand les gosses meurent en Méditerranée.
Mais je n'en ai cure.
Ah, vous en avez cure. Ben voilà, ça, et ben voilà.
Ça, c'est la différence entre
vous et moi.
Absolument.
Moi, quand
d'accord.
Un homme, comme un être humain, quel qu'il soit, la couleur de sa peau, la
oui,
couleur de sa
Julien
couleur,
Drey.
Est en train de. Non, pas
monsieur, que je vous indique.
Ne devenez pas aussi poli qu'il devient agaçant, parce que genre méprisant.
Pas du tout.
Bon,
pas du tout.
Non, quand un homme meurt,
oui.
Pour moi, c'est un frère, et j'essaie de le sauver.
Et ben pour moi, il a pris son risque.
Voilà, bon, il y avait quand même Zemmour et Julien Drey sur un même plateau, on peut pas dire que... Voilà.
C'était pas du caviar.
C'était pas du caviar, quoi.
Mais quand est-ce qu'ils vont nous mettre un véritable... Moi, j'ai déjà provoqué Zemmour plusieurs fois, mais il répond pas. Quand est-ce qu'ils vont mettre de véritables contradicteurs face à ce guignol? Je veux dire, il est très très faible, Zemmour, intellectuellement, contrairement à l'idée reçue. Sauf qu'il est encore pire en face de lui. C'est incroyable. Je veux dire, quand il dit je n'en ai cure pour faire son petit 18e siècle, pour se donner le sentiment qu'il est dès l'appartenance française depuis de longue date. Quand il dit que c'est l'amoureux de Napoléon, félicitations, Hitler aussi est amoureux de Napoléon. Quand il dit tout un tas de bêtises comme celle-là, il n'y a jamais personne pour le ridiculiser. Zemmour, moi, je le trouve pas du tout inquiétant parce que sur un plan idéologique, il est mauvais. Il n'a pas d'idéal.
Il est français depuis 1830.
Oui, donc il n'est pas. C'est même pas à 30. Non, Crémieux. Il faut se rappeler que c'est Crémieux.
Oui, Crémieux.
Avant, il n'est rien du tout.
Ouais, c'est grâce à Crémieux.
Avant il est comme français. Nous. Hein, c'est un frangin pour le coup.
Zemmour, ça veut dire les olives.
Oui, les olives en berbère. Mais quand il dit ça, et c'est même pas son nom en plus, c'est un nom de village. Hein. Malheureusement pour lui, il ne connaît pas son nom puisque les Français ont tout liquidé.
Zemmour,
c'est vrai, c'est la région de Zemmour. Mais quand il dit ça et qu'il est ridicule, moi, je suis inquiété par d'autres idéologues qui sont de loin plus inquiétants que lui, comme Renaud Camus est un vrai idéologue. Il y a des réflexions, c'est nourri d'intelligence et ça crée des attentats pour le coup. On a eu ce qui s'est passé à Christchurch. Donc Zemmour, quand il parle, c'est plus un excité des médias que quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire que son idéologie, c'est juste un témoignage délirant d'un amour illimité d'un pays pour lequel, et c'est là où il devient juif honteux, il croit qu'en faisant des tartines, il sera plus français que le français. Ça ne fonctionne pas comme
Enfin, il amuse les bidochons, la télé.
Il est marrant, mais il n'est pas inquiétant.
C'est un amuseur.
Et après ces provocations, parce que ça reste quand même quelqu'un qui est dans la provocation en permanence.
Évidemment.
Ces provocations font parler de lui, ça marche. Je veux dire, pour qu'un homme d'affaires comme Vincent Bolloré lui donne une émission à une telle audience et qui sait qu'il va faire de l'argent. Zemmour, c'est une boîte à fric. 500 000 bouquins vendus sur son premier bouquin.
Bon.
200 000 sur le deuxième. Donc faut pas le prendre pour plus qu'il n'est. C'est juste un petit rigolo qui me rappelle un personnage que j'aime beaucoup dans les Simpsons, qui est le méchant qu'on aime détester, qui me rappelle effectivement Monsieur Burns, le celui qui tient la centrale nucléaire.
Ah oui.
Donc on le trouve génial, excellent. Mazimour, c'est pareil, je n'en ai cure.
Bon, très bien. Juste une petite réflexion, messieurs. J'aurais pas le temps de le passer, mais Christophe Castaner a annoncé ce week-end le retrait d'une grenade controversée. Alors, faut être très clair. Hein. Encore une fois, c'est un gros coup politique parce que c'était prévu en fait. Hein.
Bien sûr.
Voilà. Sauf qu'on l'a annoncé maintenant sous le coup effectivement de l'affaire Cédric Chauvia. Le LBD reste toujours en action. Les clés d'étranglement, pour l'instant, on continue. Bref, voilà, rien de neuf sous le soleil quoi.
Rien.
Allez, messieurs, c'est parti pour notre rendez-vous quotidien pour les élections municipales direction Saint-Ouen, messieurs dames. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Et aujourd'hui, invité à passer son entretien d'admission, candidat à la mairie de Saint-Ouen, Julien Balaisy. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2.
Bonjour.
Bienvenue. Donc, vous êtes candidat pour la première fois ?
C'est la première fois. Ouais.
Ah, faut toujours commencer par une première.
Exactement.
Donc, comme c'est la première, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord aux auditrices, aux auditeurs et surtout aux habitants de Saint-Ouen pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, éventuellement ?
Bien sûr. Donc, Julien Balaisy, j'ai 40 ans, père de deux jeunes enfants. Ouais, c'est ça. Père de deux jeunes enfants, donc 10 mois et 3 ans. Actuellement, donc à l'école, première année de petite section pour la petite, et puis première année de crèche pour le plus petit. Voilà, donc c'est tout est une première cette année. Voilà, et donc démarrage en politique.
Parcours,
je suis ingénieur construction en fait à la base.
Ouais.
Voilà, et j'ai fait depuis 14 ans mes armes en mairie, travail construction de groupes scolaires, rénovation urbaine, lutte contre l'habitat indigne, entretien des voiries, des équipements publics, etc. Donc on va dire je connais déjà un petit peu le milieu des collectivités.
Qu'est-ce qui vous a pris de partir sous l'étiquette En Marche ?
Ce qui m'a pris, en fait, c'est simple.
Parce que est-ce que c'est pas un peu suicidaire en ce moment ?
Bah, c'est pas une histoire dans ce moment, parce que moi, mon engagement, c'est du moyen long terme quand même, quand je vois mon territoire, donc Saint-Ouen, pleine commune, on va dire, pour parler un peu plus large. Moi, je m'intéresse à toutes les questions de fracture territoriale depuis un grand nombre d'années. C'est pas pour rien que je suis depuis 14 ans sur Sarcelles à travailler sur le Grand Ensemble et toutes ces problématiques. Et en fait, il y a ça 2 ans, avec plusieurs amis, on s'est dit, tiens, il y a un nouvel espace politique aussi qui se crée, pas de réseaux locaux, etc., pas d'idéologie. Est-ce qu'on peut développer des idées, de travailler localement sur des projets de réduction de la fracture territoriale, etc. Et en fait, entre plusieurs personnes, on s'est regroupé, pour vous dire les choses, et on s'est dit, on va avancer, on va proposer des choses. Et dans le cadre là de l'investiture, en fait, moi, l'idée était claire et simple. On s'est dit, on veut bien y aller, mais aucune condition politique. C'est le projet avant tout local. Et en fait, on porte un projet local. Actuellement, on est donc on sera 45 sur la liste et aucun ancien élu, zéro. Que des gens qui s'y connaissent d'une certaine manière, soit par leur investissement associatif, puisqu'ils ont été présidents d'associations et de grosses associations sur la ville, ou alors DRH en collectivité, ou alors directeur départemental éducation nationale, ou délégué départemental de l'éducation nationale, ou alors référent CAF 93 de la petite enfance, ou des voilà, c'est des personnes comme ça qui composent l'équipe.
On va un peu parler de ce que vous allez proposer, ce qui est un peu l'objet de votre venue aujourd'hui pour les habitants de Saint-Ouen. Alors notamment, tiens, le premier plan, un plan d'urgence école incluse, carte scolaire, pardon.
Oui.
Charte parents, élèves, élus. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles de Saint-Ouen ?
Bah, en fait, ce qui se passe à Saint-Ouen, c'est qu'il y a une grande surface de terrain à bâtir. En fait, vous avez un exemple, c'est la ZAC des Docks, qui est la première ZAC d'intérêt métropolitain, donc en fait qui est remontée à la métropole, qui est aux portes de Paris. Et en fait, on a 100 hectares de terrain qui étaient industriels. On sait tous très bien que la désindustrialisation, on va y arriver, a eu lieu et donc laisse place à des habitants. Actuellement, nous sommes 51 248, je crois. Enfin, il y a eu le nouveau comptage à l'INSEE, donc on vient de passer les 50 000. On était 45 000 il y a encore pas longtemps. Et le maire annonçait qu'on allait joyeusement vers les 70 75 000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'explosion démographique. Explosion. En fait, on est sur du plus 50%. Donc du coup, des besoins. Des besoins publics, des besoins scolaires, et si on veut pas avoir
forcer,
Eh oui, il faut renforcer à fond. Et surtout, il faut suivre le rythme de livraison des équipements de logement. Parce que là, actuellement, vous prenez mon exemple, on est dans la ZAC, on vient d'arriver il y a peu de temps sur nos livraisons là. Et en fait, les
c'est
écoles.
C'est que de l'accession à la propriété.
C'est il y a de l'accession et du social quand même. Parce que sur, oui, oui, il y a eu 40% quand même de logements sociaux sur la phase 1. Sauf qu'il n'y avait que deux groupes scolaires. Donc en fait, on a dû remplir des écoles hors ZAC pour la rentrée 2019, si on se retrouvait à 35 sur l'école PEF par exemple. Vous voyez, ce qui est pas possible, puisqu'on a les limites à 20.
On découvre la ville de Saint-Ouen, les amis, avec candidat à la mairie de Saint-Ouen pour le 15 et 22 mars prochain. Julien Balaisy qui est avec nous pour parler de son programme. Alors, amélioration durable du cadre de vie et sécurité, baisser l'empreinte carbone sur la ville, circulation, éclairage public, propreté, plan vélo. Et alors, aussi quelque chose qui nous intéresse, c'est la police municipale, parce qu'on le sait malheureusement que Saint-Ouen revient souvent à la une dans les faits divers. Vous avez des gros trafiquants de stupes dans votre ville.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelques soucis, on va dire, dans les quartiers, des choufs. Hein. Mmh. Abdeslam est déjà passé dans le coin, je crois, et a pu remarquer la
je
chose.
Je ne suis pas un chouf.
Pour acheter ou...
Il a pu remarquer aux abords des écoles. Non, il y a un vrai sujet d'occupation, en fait, humaine du terrain. Parce que c'est ça, en fait, hein, dont on parle. Si on n'occupe pas le terrain, en fait, d'autres l'occupent.
Mais comment on règle ce problème, Julien Balaisy? Parce que
déjà,
là, c'est un problème gravissime.
Oui, oui, déjà, premier point. Donc, je vous disais, occupation humaine. Actuellement, il faut savoir qu'à la police municipale, nous avons 15 postes vacants, je dis bien 15,
ouais.
Donc des ASVP, mais aussi des policiers de jour.
Ouais.
Donc ça, c'est le premier point, c'est compléter les postes vacants avec un vrai projet de police municipale, parce qu'on sait qu'il y a quand même une guerre entre villes pour attirer les policiers municipaux. Donc en fait, c'est à celui qui sera le plus attractif dans son projet. Et on va dire qu'à Saint-Ouen, il faut vraiment un projet attractif sur la police municipale.
Le maire a du mal à les garder.
Bah, le maire a l'air, en tout cas, d'avoir du mal à compléter les postes vacants, puisqu'il y a une quinzaine de postes vacants entre les ASVP et les brigades de jour. Donc déjà, il y a un premier point là-dessus, c'est qu'il y a un gros travail, qu'un vrai projet de police municipale à mener. La deuxième chose, c'est que Édouard Philippe a annoncé il y a peu des mesures pour le 93. Et dans les mesures pour le 93, on s'était battu dans le cadre du grand débat national sur Saint-Ouen. On a, avec la Courneuve sur Saint-Ouen, gagné, ça n'a pas fait beaucoup de bruit sur Saint-Ouen, ce qui est assez étrange, la police de sécurité du quotidien. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisque ce sont des policiers nationaux de terrain qui seront sur le terrain.
Est-ce que ça suffira pour endiguer ce trafic?
C'est un début, parce que ça en fait quand même une trentaine. Vous faites 30 plus 15 déjà, ça fait du monde. À ça, on commence à travailler déjà, à échanger. Là, j'ai échangé il y a peu avec l'association Raid Aventure, je sais pas si vous connaissez, de Pomard. En fait, c'est l'ancien instructeur du Raid qui travaille en fait les relations entre policiers et jeunes. Oui, en fait, ils font des stages, etc. Ils font du lien. Donc, on veut travailler avant que la PSQ arrive. Évidemment, faut qu'on gagne la mairie, mais on veut travailler sur une relation. La PSQ arrive, on travaille avec les associations sur le terrain pour lier les jeunes des quartiers qui ne sont pas les choufs, puisqu'ils ne sont pas des quartiers. Ça, c'est un autre souci aussi. De plus en plus, vous avez des jeunes, en fait, qui viennent pour dealer la drogue, mais qui sont pas du quartier. Les mecs sont assez malins.
Oui, mais les premiers à en subir les conséquences, les premiers, ce sont les habitants de ces quartiers-là.
Tout à fait.
Ils ne peuvent pas rentrer comme ils veulent.
Tout à fait.
Ils ont pris le contrôle, en fait, de ces bâtiments.
Bah, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, je vous dis, de personnes sur le terrain, si vous occupez pas le terrain, et les choufs n'ont pas peur. Et puis
faut
les consommateurs.
Quand même chouf, hein, parce que les gens
comprennent pas forcément. C'est les guetteurs.
C'est les guetteurs.
Les guetteurs. Parce que choufs, ça veut dire
ils sont, ils sont très jeunes d'ailleurs.
Ouais. Sur la ville, c'est vrai que tout le monde dit ça. Donc oui, c'est les guetteurs. Et en fait, le problème, c'est que il faut aussi s'attaquer, on va dire, aux consommateurs. Et si vous avez des policiers de rue, des policiers municipaux, des assos sur le terrain, les consommateurs, ils vont commencer à se dire, oula, bon. Si
les policiers de rue qui remplacent la police de proximité.
Tout à fait. Nicolas Sarkozy a sacrifié.
C'est ça. Ouais.
Tout à fait.
Parce qu'il estimait que la police n'avait pas vocation à jouer au football avec les jeunes.
Est-ce que vous vous engagez, vous, Julien Balaisy, aujourd'hui, auprès de vos électeurs, à régler ce problème au plus vite? Ce qui devrait être d'ailleurs un plan d'urgence pour Saint-Ouen.
Ben, justement, l'arrivée de la PSQ, c'est mi-2020. Donc, si vous voulez, le travail va arriver très vite, hein.
Ouais.
Après les élections, quoi.
Ouais,
absolument.
Après.
Alors, gouvernance.
Et on a l'arrivée de la DGSI aussi sur la ville. Hein.
DGSI.
Ah oui.
Ah, ça fait peur.
Ah oula.
La direction générale.
La DGSI qui s'installerait dans une ville gangrénée par le trafic de stupes, c'est pas mal.
5500 personnes.
Pas mal comme image.
Ouais. Enfin, côté.
Saint-Ouen a un statut particulier quand même. Ouais. D'abord, elle a accueilli la région.
Tout à fait.
Elle est à une porte de Paris, d'où justement ces problèmes de trafic. Parce qu'on a tendance à penser que le deal vient des banlieues. Non, il est organisé à Paris.
C'est ça.
Et justement, et toutes ces villes qui sont périphériques à Paris subissent ce trafic de grande envergure qui est fait par des gros bonnets. Hein. C'est pas le petit vendeur du coin qui organise le
système. Non, puis les points de deal sont à la frontière de Paris.
Mais forcément,
c'est ça. Ouais. Voilà.
Un petit mot sur les plans vélo que vous proposez, Julien Balzi.
Oui, ça c'est un autre exemple en fait de problématique à développer sur la ville et surtout de mobilisation des différentes strates territoriales, puisque c'est une ville endettée, mais l'argent est ailleurs. On a 6 strates territoriales et il faut savoir mobiliser. C'est un exemple, il y a eu un plan vélo de 350 millions de la part de l'État et Saint-Ouen est par exemple un point noir du vélo. On n'a pas le Vélib, on est la seule ville autour de Paris à ne pas l'avoir et on n'a pas ou très peu de pistes cyclables protégées. Donc en fait, nous c'est simple, on dépose des plans vélo dans les appels à projets et on les fait financer.
Le précédent maire n'a pas travaillé
sur rien du tout.
En matière de transport, on peut dire que
c'est pas un écologiste, c'est sûr. C'est
clair. En matière de transport, on peut dire que Saint-Ouen est quand même plutôt bien loti.
Bien sûr, il y a la 14 qui arrive là.
La 14 qui arrive, effectivement, c'est quand même une sacrée arrivée.
Ça va aider la 13, hein, parce que franchement, les pauvres Ordoniens là, on était pas terribles.
Et pour ce qui est des Jeux Olympiques, c'est important, ça vous tient à cœur, Julien Balzi.
Et oui, puisque en fait, on a le village olympique pour 40% sur le nord de la ville, donc aux frontières de Saint-Denis et Pleyel, et surtout, c'est un héritage. Quand on parle d'héritage des Jeux Olympiques, évidemment, il faut anticiper. Et on a le quartier du Vieux Saint-Ouen, juste en face, donc qui est le plus grand quartier prioritaire de la ville, sur lequel personne n'a jamais rien fait depuis 2004. Et ça, je le tiens à le dire à nos auditeurs.
Ouais.
L'Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain, l'ANRU, existe depuis 2004.
Ouais.
Il n'y a jamais eu un euro de rénovation urbaine sur la ville de Saint-Ouen, alors qu'on a les plus gros quartiers éligibles sur l'ouest du département. On a le Vieux Saint-Ouen, on a Cordon-la-Motte-Topin, on a Arago. Moi, en comparaison...
Le maire ne m'a pas battu pour l'ANRU 2.
Le maire actuel, en fait, c'est bloqué en ce moment.
Ouais.
Vous parlez avec Patrick Brauzec, le président de Belle Commune, c'est bloqué. Donc en fait, on n'a pas de renouvellement des quartiers. Et le village olympique qui est juste en face, en fait, c'est une synergie à avoir pour développer les quartiers.
C'est possible. Un levier, quoi.
Bien sûr.
Mais quel est l'endettement de Saint-Ouen? Parce que,
il est à 155 millions, là, actuellement.
Et par rapport à un budget de...
Bon, ça varie complètement, puisqu'en fait, c'est un territoire en forte explosion, donc l'investissement suivant les années, il
varie
beaucoup.
Je parle du budget de collecter des impôts.
Je crois qu'il y a 60 millions, par exemple, là, de 60 millions actuellement, environ de ressources humaines, c'est la première dépense.
Ouais, Julien Balzi, quelle sera votre première grande décision si vous accédez à ce poste de maire de Saint-Ouen?
Déjà, je vous parlais de rénovation urbaine, moi je la relance.
Ouais. Bah,
forcément du bâtiment.
On a deux, on a, puis même c'est mon, enfin, ouais, Sarcelles, moi j'ai financé, on a financé, je veux dire, c'est pas moi, mais on a financé quand même 8 groupes scolaires à Sarcelles. Via l'Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain, et là on a des groupes scolaires qui périclitent.
Vous aviez de la chance, c'était Pupponi qui était président.
C'était mon député maire qui était président de l'ANRU, mais pour dire que je m'y connais, pour le coup on a le groupe scolaire Langevin et Anatole France qui sont en train complètement de péricliter, alors qu'on a l'argent de l'État pour pouvoir le faire et qu'on le mobilise pas, c'est quand même dingue.
Julien Balzi, pardon, Gamal et Abstem, vous allez pouvoir, vous inquiétez pas, poser vos questions dans un instant, une chacun, s'il vous plaît. En cas de présence au deuxième tour, est-ce que vous allez faire des deals? Est-ce que vous êtes prêt à faire des deals?
Nous, on est dans l'optique de défendre notre projet.
Ouais.
Donc, on part pas dans l'optique de faire des entre guillemets deals. Par contre, ceux qui veulent nous rejoindre et qui adhèrent à notre projet, on les accueille. C'est ce qu'on a toujours dit. C'est Saint-Ouen ensemble. On accepte tous les Odoniens. Ceux qui sont pour défendre le projet que nous voulons proposer aux Odoniens sont le bienvenu.
Est-ce que l'étiquette En Marche, donc vous l'affichez clairement, vous n'en avez pas, j'allais dire, vous ne la cachez pas. Est-ce que ça veut dire que pour En Marche, pour vous, pour la République En Marche, c'est un terrain conquis, Saint-Ouen, parce que on le sait, je fais référence à un document qui est connu de tous, où quand on est candidat dans une ville, on n'est pas en terrain conquis, il est préférable et on est invité à cacher le logo.
Alors, le logo, on l'affiche surtout.
Ouais.
Maintenant, c'est Saint-Ouen ensemble. Donc, moi, je suis investi par La République En Marche. Mais comme j'expliquais, j'ai des gens dans ma liste qui sont du Parti Radical de Gauche.
Ouais.
J'ai des gens qui sont du Modem.
Ouais.
J'ai des présidents d'associations qui ne sont dans aucun parti. Et on va dire que j'ai 2/3 de gens qui ne sont d'aucun parti et 1/3 de gens qui viennent ou qui ont adhéré à un parti. Donc, si vous voulez, on est quand même pas mal porté société civile. Donc, déjà.
C'est un peu le principe En Marche.
Oui, c'est ça.
Oui, vous êtes un aspirateur, en fait. Mm-hmm. Hein, vous aspirez tout ce qui bouge.
J'aspire pas tout ce qui bouge, non.
Non, pas vous. Le parti, Monsieur Balzi, voyons. Oui. Alors, Abdeslam Itache, question pour monsieur Julien En Marche. Julien En Marche. Julien Balzi, candidat à Saint-Ouen.
Non, mais justement, sur tous ces grands ensembles. Vous avez évoqué le fait qu'il n'y ait pas de piste cyclable, qu'il n'y ait pas de Vélib. J'imagine bien que la circulation douce, c'est quand même une de vos priorités.
C'est une priorité parmi d'autres. Parce que franchement, le la première priorité pour moi, c'est les écoles, c'est aussi le logement.
Oui.
Ouais.
Donc, mais les pistes cyclables, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en œuvre. Le logement et les constructions, c'est quelque chose de plus long.
Pourquoi le maire ne l'a pas mis en
place ? Ah ben ça, c'est, faudrait lui poser la question. Ouais. Je l'ai posé à son ancien maire adjoint à la voirie, qui depuis a démissionné d'ailleurs, qui était Monsieur Vary, et il n'avait pas franchement la réponse. Je lui ai dit pourquoi tu n'as pas de chef de projet sur les mobilités douces aux portes de Paris, aux frontières de trois départements. C'est un exemple.
Mais vous, pour le coup, vous êtes technicien, donc.
Oui, donc on mobilise assez facilement.
Gamal Abina.
Bah, moi, Saint-Ouen, je la connais depuis très longtemps parce que j'ai ma femme y était là-bas. J'ai toujours trouvé que c'est une ville moche, triste. On sent vraiment la vieille ville ouvrière désindustrialisée, avec des friches, effectivement.
Espèce de bobo.
Non, du tout. Je suis une racaille du 93, moi aussi. Sérieusement. Mais la réalité, c'est que moi, j'étais en 94, pour faire simple. Et le 94, en comparaison, c'est le paradis. Hein. Et ce qui se passe, la question que je pose, c'est que, bon, là, vous êtes jeune déjà pour commencer. 41 ans, c'est pas anodin.
40 en plus.
Ou 40
encore plus,
c'est encore mieux. Et c'est un peu comme Macron, on dira. Le problème, c'est que avec tout ce qui s'est passé, avec toutes ces histoires de gilets jaunes, enfin, il y a quand même tout un cumul de difficultés en France qui sont visibles par rapport à la République en marche. En général, les gens, quand ils se lancent dans les élections, ils vont plutôt dans la singularité et ils mettent pas d'étiquette. Là, c'est un risque qui est pas ridicule. Je sais pas si vous l'avez intégré ou quoi. Moi, la question que je me pose, c'est que quand on arrive avec cette étiquette là, il y a une popularité par une certaine partie des Français, mais globalement c'est moins populaire que ça l'a été au départ. Est-ce que c'est pas un handicap finalement? Est-ce que vous n'êtes pas attaqué pour cette raison-là? Est-ce qu'on vous dit pas vous êtes des macronistes? Toutes ces images un peu négatives qui sont véhiculées aujourd'hui, sachant que le projet me paraît intéressant.
Bien sûr, bien sûr.
C'est juste une question.
Alors en fait, les gens viennent nous voir et nous voilà, on peut recevoir des critiques du niveau peut-être national comme vous dites, mais très vite. Puisque c'est le quotidien des gens, on l'entendait tout à l'heure avec le monsieur aussi, ça revient aussi au local. Et quand on commence à me poser des questions sur le local et sur les dossiers, ils voient quand même qu'on a des réponses à leur apporter qui ne sont pas politiciennes ou politiques. Quand je viens parler de rénovation urbaine du vieux, moi je pose la question, je vous reviens dessus, hein, mais avant, le maire de droite qui ne veut pas forcément faire de rénovation urbaine, c'était une mairie de gauche. Et moi je lui retourne la question, je lui dis, mais au-delà de parler d'étiquette, etc., pour parler projet, parce que moi je le dépose, hein, j'en ai parlé à monsieur Braouzec qui est président de pleine commune et qui porte la rénovation urbaine, pourquoi avant la gauche n'a pas fait de rénovation urbaine dans votre quartier puisqu'il a dit qu'il vous défend?
Ouais.
Non, je vais clairement moi au bout en fait. Donc je balaye les histoires d'étiquettes parce qu'à la base, vu que je viens quand même de la société civile, c'est des choses qui très vite ne m'intéressent pas. Et je montre aux gens en fait que d'un point de vue pédagogique, faut arrêter avec les histoires d'étiquettes. Sur un projet local, c'est on défend un projet local. Et très vite les gens en fait passent à autre chose parce qu'ils ont compris que ce qui compte c'est signer ce sacré projet de rénovation urbaine du vieux.
Moi j'ai dit votre point fort, c'est deux choses juste pour finir, Christophe. C'est d'abord que vous avez maîtrise du métier, ce qui est quand même pas rien. Ça c'est important. Ensuite vous avez...
surtout sur un territoire dynamique tel que Saint-Ouen.
On s'entend bien, puis surtout qu'avec les Jeux Olympiques, bien c'est obligatoirement un
choix. Il y a 5 milliards d'euros d'investissement quasiment.
Hein, c'est la première chose, une expertise, ça j'apprécie. Puis la seconde chose, j'ai envie de dire, en tant que fait que vous êtes de là-bas, c'est qu'effectivement vous avez à cœur ces changements puisque vous avez des enfants qui vont vivre là-bas.
Bien sûr.
Donc je suppose qu'effectivement vous serez plus investi que des vieux éléphants du PS ou je ne sais quelle autre partie qui faisaient la gestion de patrimoine, mais de leur patrimoine.
C'est ça.
En tout cas, Julien Balaisier est avec nous sur France Maghreb. Deux candidats pour la mairie de Saint-Ouen. On l'a compris. Alors j'ai vu dans votre programme le respect du personnel aussi. C'est important,
oui,
ça.
Bah,
on
ne
respecte
important.
Pas le personnel à Saint-Ouen aujourd'hui.
Bah écoutez, il y a quelques difficultés en fait qui transparaissent.
Ouais.
On a, je vous le dis, des postes vacants quand même qui sont assez importants. Exemple à la PM, je sais que sur tout ce qui est service technique, il y a pas mal de postes vacants aussi, ça tourne pas mal. Et ça, c'est toujours le symptôme de services qui vont pas forcément bien ou qui peuvent être en souffrance. J'ai aussi des retours sur pas mal, on va dire, d'arrêts maladie. Il y aurait entre 8 et 10%. Quand vous avez 8 à 10% potentiellement, suivant les années en fait, 100, 150 peut-être, jusqu'à 150 arrêts maladie, ça laisse le signe quand même qu'il y a quelques soucis dans les services. Et si je le mets moi en avant, c'est que je suis moi-même de la territoriale, donc c'est quelque chose que je sais important. Si vous voulez, on dit toujours oui, moi je ferai. Un élu, il fait pas 5% du travail pour les habitants. Hein.
Ouais.
C'est les services qui font 95%. Absolument. Donc le plus important, et ça je le dis aux auditeurs et aux auditrices, ça c'est mon côté un peu pédago. Pensez surtout que ce qu'il faut, c'est avoir des services municipaux en bonne santé, puisque c'est eux en fait qui rendent le service. C'est pas les élus. Hein.
Vous serez à l'écoute évidemment des citoyens et vous allez, démarcher, aller plus vers la démocratie participative.
Tout à fait.
Voilà. Alors en quoi ça consiste la démocratie participative pour vous, Julien Balaisy?
Je viens juste d'en parler. Ça commence déjà par une chose, c'est la pédagogie au niveau local.
Ouais.
Je prends un exemple, les parents d'élèves élus. Voilà. Quand on est parent d'élève élu, en fait, on se dit tiens, en début d'année, je vais me présenter, comme ça, je pourrais défendre et être au conseil d'école. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus. Ça peut être le suivi des normes dans l'école, savoir si tout se passe bien, si le bâtiment est en bon état, si l'amiante, hein, avec les dossiers techniques d'amiante, vous connaissez ça, sont en bon état. En fait, je me suis rendu compte que même certains chefs d'établissement de la ville savaient même pas qu'ils avaient l'obligation d'avoir leur dossier technique amiante à jour dans les mains, savoir qu'il est à jour, etc. Donc il y a tout un travail de pédagogie à mettre en place.
Mais qui sont les gens par l'amiante en bon état? C'est pas le,
en fait, le DTA, ouais, non, en fait, le DTA, on va pas faire de technique, mais en gros, il y a des états à avoir pour respecter les normes de fibres dans l'air.
Ouais.
Il y a un volume de fibres.
C'est le plus important dans une école.
Alors, Julien Balaisy, pardon, parce que le temps presse.
Oui.
Il nous reste très peu de temps. Je vais vous donner une petite minute pour vous adresser aux électeurs de Saint-Ouen, aux habitants de Saint-Ouen. Pourquoi il faut voter le 15 mars pour Julien Balaisy? C'est à vous de jouer.
C'est parti. Donc, écoutez, chers Audoniennes, chers Audoniens, je vous dirais surtout de venir à nos côtés, puisque Saint-Ouen Ensemble, c'est la défense de tous les Audoniens, et notre projet défend l'ensemble des Audoniens, c'est vraiment le plus important. Ce que je peux vous dire, c'est que notre territoire est une chance formidable, que beaucoup de territoires peuvent nous envier, puisqu'il y aura beaucoup d'investissements sur le territoire qu'il faut faire matcher dans la bonne direction pour l'intérêt des Audoniens. Je pense aussi bien aux écoles que je pense au village olympique. Ça peut créer de l'emploi si on anticipe sur les formations, etc. On peut vraiment vraiment trouver beaucoup de travail. On peut travailler sur les emplois francs qui ne sont pas travaillés sur la ville. Il y a beaucoup de travail que nous mettrons en place avec certains ministères. On parlait des mobilités douces, mais on peut parler aussi de rénovation urbaine, on peut parler de développement durable sur la ville, on peut parler que Saint-Ouen est un gros point chaud du Grand Paris et qu'on travaillera la végétalisation de la ville. Je peux parler aussi évidemment de gouvernance et de transparence. Nous mettrons en place toutes les délibérations en ligne. Actuellement, nous n'avons rien en ligne. Donc, la pédagogie et l'information au service des habitants.
Merci, monsieur Julien Balaisy. Bonne chance pour le 15 mars
Merci
prochain. Candidat à Saint-Ouen, à retrouver l'interview donc en vidéo sur la page Christophe Legrand Forum dans un instant de quiz. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 et l'émission du LGF se termine évidemment tous les jours par le fameux quiz de l'actualité qui va opposer aujourd'hui monsieur Gamal Abina à ma droite, monsieur Abdeslam Itach à ma gauche. Tiens,
c'est bizarre.
Il y a des signes.
Il a changé de camp, c'est bizarre.
Il y a quelque chose.
J'aime le rose.
Il y a des trucs qui se préparent, je ne sais pas. Bref, en tout cas.
Michou aussi aime le rose.
Bon, alors c'est parti, messieurs, voici le quiz.
Non, lui, c'était le bleu. Quiz.
Allez, on y va avec mes petites questions. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Quel candidat à la mairie de Paris propose de déplacer la gare?
Griveaux.
Griveaux.
J'ai pas eu le temps.
De la gare de l'Est. Alors que son adversaire, entre guillemets, parce que maintenant, ça y est, on peut parler d'adversaire, Villani lui parle de la gare du Nord.
N'importe quoi. La gare du Nord, il est sérieux?
Ah ouais, il est sérieux.
Non, là, c'est n'importe quoi. Gare de l'Est, à la limite.
Gare de l'Est, c'est. Non, mais c'est juste irréalisable, monsieur.
C'est irréalisable. Ah. C'est une promesse de campagne.
C'est un projet qui va coûter des milliards et des milliards pour faire un parc, alors qu'il y en a déjà plein à Paris. D'accord?
Ah, là, je suis pas d'accord avec toi.
Mais il y a plein de parcs à Paris.
Non, je suis pas d'accord. C'est une ville grise.
Si tu veux faire un Central Park à la Paris, il y a pas de problème. T'as de quoi faire.
Il y a pas de parc.
J'ai passé à la gare de l'Est.
C'est une ville grise, Paris. Elle est immonde, cette ville. Elle est grise, vraiment. Tu demandes aux Berlinois.
Bon, ne contrarie pas Gamal.
Non, mais il va pas s'énerver. Moi, je suis pour le PSG, pas de problème.
Il y a intérêt.
Il faudrait mettre plus de terrain de foot, quoi.
Non, ouais. Ça te fait un point de plus.
1-0 pour Abdeslam Itach. Quel leader des Gilets jaunes a décidé de quitter le mouvement?
J'ai plus son nom.
Ah, j'ai plus son nom.
C'est le barbu.
Oui, oui.
Le routier, là.
Ouais.
Il est très énervé, d'ailleurs.
Nicole?
Non, pas Nicole.
J'ai plus son nom.
J'ai plus son nom, pas
Eric.
Et Eric, ouais, c'était Eric.
Ouais, c'est juste.
Mais son nom, il faut
c'est
son
lui.
Nom. C'est lui. Il faut son nom.
Ah, Eric, ouais, il a pas dit.
Eric, comment?
Je sais plus. Drouet.
Voilà, merci.
Bien joué.
On t'a fait, est-ce qu'on t'a aidé?
Absolument pas.
Drouet, c'est dommage.
Drouet. Ouais. Donc, c'était lui avec Laetitia Lukowski qui était à l'origine des Gilets jaunes, hein, à la manœuvre en tout cas.
Pour pas tirer.
Et il dit en fait aujourd'hui que le mouvement, ça va dans tous les sens et que finalement on se manifeste tous les samedis pour rien. Donc, il décide de quitter le mouvement. Voilà. Et puis,
c'est la première fois que je suis d'accord avec lui.
Ah ouais, oui. Mais c'est quand même le mec qui a voulu prendre l'Elysée. Il faut se rappeler quand même des conneries qu'il a raconté. Il était pas mal.
Ah oui?
Ah bah, on va prendre l'Elysée. Et pour faire quoi? On sait pas. Quand on dit ça, on se tait. Hein.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il était poursuivi pour ça, il était ridicule.
Oui.
Pour atteinte à la sûreté de l'État.
Ouais, n'importe quoi.
Bon, troisième question. Ça nous fait quand même 2 points pour Abslab, là, dites donc.
Ah, c'est vrai, je suis mauvais là.
Qui a déclaré s'adressant aux Palestiniens? Cela fait. Ça me brise le cœur, pardon, de voir Que vous continuez... Macron. Non, pas du tout. Que vous continuez à subir autant de souffrances.
Ah non, c'est un Européen, c'est sûr.
C'est un prince.
Un prince.
Oui, monsieur.
Oui, c'est prince Albert, prince Albert.
Non, 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 pas
le prince d'Angleterre, comme ça, le prince Harry.
Prince.
Non, non, c'est pas le prince Harry.
Bah, son frère.
Il y a un autre prince.
Son père.
Non, c'est son frère.
Il était en Israël. Le prince Charles. Oh, une bonne réponse. C'est ce qu'il a déclaré lors du voyage en Israël.
Mais c'est pas le prince Harry.
Non, non, c'était le prince Charles. C'est Charles qui a dit, je répète la déclaration, cela me brise le cœur de voir que vous continuez à subir autant de souffrances. Ouais. Déclaration du prince Charles.
Ça mange pas de pain. Hein.
3-0.
Bien joué.
Quel président a décoré la célèbre militante algérienne Jamila Bouyrad?
Président tunisien.
Le président tunisien est une excellente réponse. Jamila Bouyrad, qui a 85 ans, a été décoré par Kais Saied la semaine dernière. 3-1. Visite de Erdogan en Algérie. Combien d'hommes d'affaires ont accompagné
150. 40.
Le président, combien?
150. 40.
C'est pas 40 et c'est pas 150.
147.
50.
C'est moins. C'est moins.
130.
C'est plus.
145.
140.
140 est une excellente réponse. Victoire du champion aujourd'hui. Abdestavitage qui retrouve le chemin de la victoire.
Eh ben, je repasse en tête d'un demi-point.
Ah bah ouais.
Robert Philippe.
Bisous Philippe.
Victoire 4-1. Voilà, là c'est à la loyale les gars.
Bah ouais, enfin.
Voilà. On est dans l'actu, les gars. Et il a mieux révisé que toi, Abdeslavitash.
Je suis pas en France, hein.
Ouais, t'es revenu depuis deux semaines.
Non, mais je travaille, moi.
J'aime bien le moi.
Abdeslav, il faut rien.
Deux semaines de retard à remonter. Je voyais pas la télé. J'ai pas la télé.
J'en profite pour finir cette émission pour soutenir publiquement notre ami Abdeslavitash, qui subit ce qu'on peut appeler, alors je sais pas s'il y a un mot ou un adjectif, qui subit la pire des crasseries en matière de politique à l'échelle locale. Quand on s'attaque à la vie personnelle d'un candidat ou de quelqu'un en politique, c'est du crasseux. Ouais, c'est clair. Qui plus est, quand ça vient malheureusement de sa propre communauté, c'est encore pire. Donc soutien total à Abdeslavitash, tu as tout notre soutien du LGF, mon frère. Absolument. Je tenais à te le dire.
Merci à vous.
Absolument.
On rappelle juste pour les auditeurs qui nous écoutent, on n'a pas hésité à mettre une voiture avec une caméra pour observer tes faits et gestes.
Une caméra dans ma rue, exactement.
Ce qui relève évidemment d'une violation de la vie privée.
Et tu as évidemment porté plainte.
Évidemment.
Bon, et la paire est portée donc en justice. Demain, c'est un casting un peu novateur demain qu'on vous propose dans le LGF. Le retour de Ousmane Timéra qui navigue entre l'Afrique et la France. Il sera donc en France. Et Sabrina Sebaï qui sera avec nous demain. Mercredi, aussi le retour de Dounia Tebaoui qui sera avec nous. Et on aura aussi Soraya Rachedi et Philippe Pouriaki. Jeudi, aussi un retour. Tiens, il était aux États-Unis, il est revenu. Il nous parlera du racisme qu'il a vécu là-bas. C'est Islem Seili qui sera avec nous, accompagné de Samia Chiki et de Céline Bory. Et vendredi, Tarek Mami et Farid Tamsabali. Voilà une belle semaine en notre compagnie, évidemment, sur France Maghreb. De belles soirées à vous. Merci monsieur Gamal Abina.
Merci
monsieur Abdeslavitash. Et rendez-vous demain les amis, et à très vite pour vous la semaine prochaine probablement. Il est 18h et vous êtes bien sur France Maghreb 2 à l'heure, s'il vous plaît, l'heure du journal de Sophie Terrence dans un instant. L'ami Medjahed pour la suite des programmes. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Le coronavirus gagne du terrain. La ville de Pékin annonce un premier décès, loin donc du centre de l'épidémie situé à Wuhan. De son côté, l'OMS réévalue la menace à l'échelle internationale. Le risque n'est plus modéré, mais élevé. Ils peuvent appeler jusqu'à 10 fois par jour pour vous proposer l'isolation de votre maison à 1 euro. Le gouvernement veut mettre un terme au démarchage abusif. Les sanctions vont être renforcées. Puis enfin, les chefs de toute la France retenez leur souffle. Le guide Michelin a dévoilé ce soir son palmarès 2020. On s'y intéresse à la fin de ce journal. L'inquiétude en Chine et dans le monde autour du coronavirus. Le bilan est revenu ce soir à la hausse. 82 morts et 2744 cas diagnostiqués dans tout le pays, dont un peu moins du quart en dehors de l'épicentre du virus, la ville de Wuhan. C'est notamment le cas à Pékin, Léa Guichou.
Oui, Pékin qui fait état ce soir de son premier décès du coronavirus. Les précédentes victimes étaient toutes concentrées dans la province infectée de Wuhan. La Chine est quasiment à l'arrêt depuis le début de l'épidémie. Des villes entières et près de 60 millions de personnes sont en quarantaine. Les festivités du Nouvel An annulées, les congés prolongés de quelques jours pour éviter les contacts humains. Les compétitions sportives, elles aussi, sont reportées, comme le marathon de Hong Kong ou encore les Jeux nationaux d'hiver. Si le coronavirus peut s'avérer grave uniquement dans les cas de personnes fragiles comme la grippe, la situation est pourtant qualifiée de très sévère par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui revoit ce soir son évaluation internationale. La menace passe au stade élevé.
Et en France, 3 patients sont suivis, 2 à Paris, 1 à Bordeaux. Un autre patient a été mis en quarantaine à Rouen par précaution. La France qui a décidé de rapatrier cette semaine ses ressortissants qu'il souhaite. Idem pour les États-Unis qui proposent ce soir, par la voix du président Trump, leur aide. Les États-Unis qui pleurent l'étoile de la NBA, Kobe Bryant, tué hier soir dans un crash d'hélicoptère. Le quintuple champion médaillé olympique a perdu la vie, ainsi que sa fille de 13 ans et 8 autres personnes dans l'accident. Les premiers éléments indiquent des conditions météo délicates. L'État islamique veut s'en prendre à Israël. Dans un message audio diffusé aujourd'hui, le nouveau chef de Daesh, Abu Ibrahim el-Kourachi, s'est dit déterminé à entamer une nouvelle phase du djihad contre l'État hébreu, un combat, je cite, contre les juifs pour rendre ce qu'ils ont volé aux musulmans. Un mémorial pour la Shoah, Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le mur des noms à Paris, un monument où figure l'identité des juifs déportés de France lors de la Seconde Guerre mondiale, événement qui s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et à l'occasion de la journée internationale dédiée aux victimes de l'Holocauste. On écoute le chef de l'État.
Le silence assourdissant des morts, le regard exorbité et l'impossible maigreur des survivants lancés à la face de l'Europe, de la France, la honte de leur passivité et l'horreur suprême de leur complicité. Car parmi les morts de la Shoah, 75 568 étaient français, livrés avec la participation active du gouvernement de Vichy. Leurs 75 568 noms sont gravés à jamais dans la pierre.
Et au même moment, Édouard Philippe, le Premier ministre, est en Pologne. Il représente la France à la cérémonie prévue à Auschwitz même. Patrick Balkany restera en prison. La Cour d'appel de Paris examinait lundi une nouvelle demande de remise en liberté déposée par le maire de Levallois-Perret. Patrick Balkany a été condamné en septembre dernier pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Hospitalisé, il n'a pas pu assister à son procès en appel dont la décision sera rendue le 4 mars. Le démarchage téléphonique dans le collimateur du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Économie, a fait le bilan des abus et fraudes pratiquées l'an dernier. Ils sont de plus en plus nombreux et le gouvernement entend bien serrer la vis, Marie Dompère.
Oui, en augmentant les amendes, tout d'abord. Elles pourraient passer de 75 000 à 375 000 euros pour les entreprises qui sollicitent des personnes inscrites sur Bloctel. Le gouvernement veut aussi limiter les horaires et les jours de démarchage pour éviter les appels à 22 heures, par exemple. Autre idée, généraliser le name and shame, c'est-à-dire la publication de la liste des entreprises qui ne respectent pas les règles. Des mesures qui pourraient être encore plus strictes pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique. Là, le démarchage pourrait carrément être interdit. Il faut dire que le nombre d'abus a explosé lorsque le gouvernement a annoncé vouloir rénover 500 000 logements par an. Plus 20% de plaintes en un an.
Une proposition de loi doit être proposée en deuxième lecture à l'Assemblée ce jeudi. À 628 tables étoilées, 4 de moins que l'an dernier, 18 nouveaux restaurants primés à Paris, 3 à Bordeaux. Le guide Michelin dévoile en ce moment son palmarès 2020 et les chefs des grands restaurants français retiennent leur souffle. Voilà pour cette édition. Très bonne soirée à tous.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.